Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, du 8 juin 1994, diffusé mercredi 2 décembre 2015 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 3 décembre dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Bonsoir à tous. Cette semaine, on va faire quelque chose d'un peu inhabituel. Ça va certainement se passer très mal parce que je n'ai aucun retour et donc je n'entends pas ce que je vous dis.
Alors, déjà
que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si en plus je ne l'entends pas, c'est épouvantable. Donc on va faire quelque chose d'un peu particulier, puisque, vous le savez, j'en ai parlé la semaine dernière, nous allons recevoir Jean-Marie Le Pen, et simplement il sera là à partir de 7h30 à peu près. Donc, qui nous recevons ce soir, s'ils viennent, c'est toujours pareil. Vous savez, ces émissions, c'est toujours la grande angoisse, parce que on invite des interlocuteurs, et puis la vie étant ce qu'elle est, on les attend. Donc là, j'attends d'une part le docteur Dor, qui va nous parler de sa croisade, oui, et surtout d'un procès qui lui est intenté et pour lequel il a besoin de soutien moral. Ensuite, nous recevrons Basile Decoq, qui vient de publier un livre fort intéressant sur la politique en général. Ensuite, nous aurons Marc Dem pour l'actualité religieuse, puis Cécilia Dem pour l'actualité florale.
Et oui.
Voilà. Et puis Le Pen, Jean-Marie, président du Front National, pour l'actualité politique et les élections européennes qui ont lieu quand ?
Dimanche.
Voilà, c'est bien.
Jusqu'à 22h. Ne vous bousculez pas pour y aller.
Victoria est au courant. Avant, on va faire une petite revue de presse. Et vous savez, moi, je suis très étonné de voir que nos contemporains sont aussi Mossad.
Mossad, pas du tout.
Enfin, Mossad, je dis Mossad, il ne faut aucune allusion. Ils font preuve d'une certaine, d'un certain mal de vivre, d'une certaine tristesse de vivre. Or, il n'y a pas de raison. La vie est absolument pleine de raisons de rigoler. Par exemple, c'est pour vous montrer à quel point ce que je dis est vrai. J'ai pris un des journaux les plus sinistres qui soient, c'est Libération. Parce que normalement, je lis présent.
Oui.
Mais comme professionnel, je suis obligé de lire aussi les autres journaux. Et donc, je lis un petit peu tout, et entre autres, Libération. Et bien, dans Libération, j'ai trouvé au moins, 4 ou 5 sujets de rigolade. Des vrais.
Ah oui,
on va en parler. Avant, je voudrais quand même parler de présent. Vous savez que présent comparaissait avec... ou plus exactement sous les espèces de Caroline Parmentier, ce qui est quand même pas mal, dans un procès qui a été intenté par plusieurs associations antiracistes. Oui, c'est curieux, mais c'est comme ça. Parce que Caroline Parmentier avait fait un article dans lequel elle disait qu'il y avait en France de l'immigration. En gros, c'était ça. Et dans plusieurs articles qui ont précédé le procès, aussi bien Jean Madiran, directeur de présent, que Georges-Paul Wagner, l'avocat de présent, ont démontré de façon absolument lumineuse que ce procès était nul, qu'il n'y avait pas matière à poursuivre et que ça ne tenait pas debout une seule seconde. Alors qu'est-ce qui s'est passé le jour du procès ? Beaucoup d'auditeurs le savent, puisque je sais qu'il y avait beaucoup de lecteurs de présent et d'auditeurs de cette émission... et de lecteurs du Libre Journal aussi, qui s'étaient rendus à ce procès. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'avocat de la LICRA a déposé des conclusions tendant à exclure de la du débat l'analyse du texte incriminé.
Ah bah.
C'est-à-dire qu'il a dit, au fond, le problème n'est pas de savoir ce qui a été écrit, le problème n'est pas de savoir ce qui est imprimé, le problème est de savoir ce que pense... les gens qui ont écrit à mots couverts et ce que recouvre leur non-dit. Et normalement, alors ça, c'est pas tellement original en soi, puisque ça figurait déjà en quelque sorte dans le protocole du tribunal de Nuremberg qui expliquait en gros que le tribunal n'était pas tenu à la prise en considération des preuves.
Eh ben, c'est intéressant ça.
Et maintenant c'est nouveau. Autrement dit, si vous êtes, il suffit pratiquement que la LICRA, le MRAP ou une association comme ça dise « mais ce monsieur est raciste », et vous arrivez devant le tribunal, et le tribunal décide si vous êtes raciste ou pas. Mais il n'a pas à prendre en compte
ce que vous avez dit et écrit,
vous avez dit et écrit.
Surtout.
C'est finalement, c'est sur votre bonne gueule.
C'est ce que vous pensez.
Ce qui fait que raciste, au fond, ça devient quelque chose, de, on est raciste de naissance, comme les nègres. C'est pas que les nègres sont racistes de naissance. On est raciste comme on est nègre. Ça se voit. Alors, selon que vous avez... par exemple, si vous êtes marié, père de famille, si vous avez 6 enfants et que vous allez à l'église à Saint-Nicolas du Chardonnay, là, quand même, vous êtes drôlement suspect. Vous voyez ? Il faut savoir, c'est la nouvelle justice.
Eh oui.
C'est intéressant.
Oh oui. Ça ouvre plein de perspectives.
Alors, on pouvait s'attendre à ce que le tribunal dise, écoutez, c'est une... dise à l'avocat de la LICRA, écoutez, c'est une exigence qui est tellement aberrante qu'on ne va même pas la prendre en considération. Monsieur, retournez vous asseoir dans votre coin et revoyez...
Et voyons les textes.
Et voyons les textes. Pas du tout. Ils ont dit, bon, on va étudier la question. Et ils se sont mis en délibéré, on appelle ça.
Délibéré.
Et dans quelques jours, on saura si on peut instruire le procès en racisme d'un journaliste sans lire le texte qui a conduit à un dépôt de plainte.
Et comment on pense Caroline Parmentier ?
Ouais, c'est super ça.
Oh, c'est extraordinaire. Oui.
Moi je suis content d'être français quand même. Il y a des moments où vous dites
oui.
On est fiers de vivre dans un pays où des choses comme ça se passent. Mais c'est pas le seul motif de fierté qu'on ait. Je vais vous donner un autre motif de fierté. Dans Libération, et nous y voilà, Libération du mercredi 8 juin 1994, à la page 11, il y a un article surtitré Colloque, intitulé Pierre Bourdieu chez les journalistes, et dont le chapeau, la présentation de l'article, nous dit la chose suivante. L'engouement des journalistes pour les questions éthiques intéresse les chercheurs. Ils en ont débattu à l'École supérieure de journalisme de Lille. Alors, l'éthique, je le dis pour les jeunes qui nous écoutent, c'est un peu comme la morale, vous voyez, c'est un peu la même chose. Donc, quand on dit l'engouement des journalistes pour les questions éthiques, ça veut dire l'intérêt que les journalistes portent au problème de morale.
Oui, oui.
Ça vous avait frappé
aussi.
Nous avons
bien compris, hein. Oui.
Quand on lit Libération, par exemple, ou d'autres journaux, on est frappé, c'est vrai, par l'intérêt que ces journaux portent à la morale. C'est très, très frappant. Par exemple, j'ai pas la suite du journal, mais je suis sûr que je me trompe pas en disant que dans Libération, vers la fin, en général, il y a des questions de morale qui sont traitées, notamment dans les petites annonces, d'une façon un peu particulière. Oui. Donc on sent que vraiment les journalistes de Libé ont une espèce d'engouement pour la morale. Et les jeunes journalistes de Lille, par exemple, ont un engouement pour les questions éthiques.
Les questions éthiques, mais pas l'ordre moral.
C'est pas des questions éthiques en toc, c'est... Et alors, donc la Libération nous dit « Comme un fil rouge, l'affaire Paul Amar est restée présente dans les esprits des journalistes, universitaires et chercheurs, invités par l'École supérieure de journalisme de Lille à réfléchir sur le journalisme, son métier et sa morale. » Parce que, il faut savoir, donc là c'est bien clair, que l'affaire Paul Amar, c'est une question d'éthique. C'est-à-dire, quand un journaliste, au début d'un débat politique avec des gens qui ne lui plaisent pas, un journaliste du service public, c'est-à-dire un fonctionnaire en fait, de l'État, sort d'un sac avec une grosse marque dessus, une paire de gants, enfin deux paires de gants, en disant aux hommes politiques, en gros, tenez, voilà les seuls arguments que vous êtes capables d'échanger, eh bien, ça pose un problème moral. Vous voyez, ça pose un problème d'éthique. Et c'est un problème d'éthique qui interpelle les journalistes, les universitaires et les chercheurs. Et donc, ils ont organisé un colloque sur ces questions de morale. Et qui ont-ils invité à ce colloque ? Ils ont invité Monsieur Pierre Bourdieu, professeur au Collège de France, qui est un sociologue, ethnologue, poilogogue, bien entendu, qui leur a exposé son point de vue. Alors, Monsieur Pierre Bourdieu, Bourdieu...
Et quel est ce point de vue ?
Leur a dit, comment faire pour qu'un journaliste de télévision soit réprouvé quand ils commettent un acte dégoûtant en sortant des gants de boxe à l'occasion d'un débat politique. Il faut analyser au sens quasiment freudien du terme les lois de fonctionnement du milieu. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Hein. Et trouver le régime dans lequel la vertu a des chances d'être récompensée, comme le préconisait déjà Machiavel. Voilà. J'arrête la lecture parce que il y a un moment où on se demande si on ne devient pas fou. Mais je voudrais quand même dire autre chose. C'est que, sauf erreur de ma part, et s'il y a erreur, j'en demande pardon à l'avance à l'intéressé, je crois avoir lu le nom de M. Pierre Bourdieu ailleurs. Il me semble, mais je ne voudrais pas, encore une fois,
dire des choses
qui n'est même pas vrai. Il me semble bien que M. Pierre Bourdieu fait partie des signataires d'un document qui est le document constitutif du réseau Voltaire.
Le réseau Voltaire.
Alors, qu'est-ce que le réseau Voltaire ? Devriez-vous me demander si vous vous intéressiez à ce que je dis.
Je m'y intéresse beaucoup et j'attends avec intérêt.
Eh bien, voilà. Le réseau Voltaire, c'est une organisation qui a été créée par, donc...
En dehors de M. Bourdieu.
Dont la constitution a été approuvée et dont les... en quelque sorte, l'objet a été contresigné par M. Bourdieu, sociologue, par M. Jean-François Horry. Vous savez, M. Jean-François Horry, c'est ce politicien tapiste...
Qui s'est fait ratatiner par M. Martinez, voilà.
Il faisait l'Auguste dans le débat avec Serge Martinez. Fait un politicien très intéressant. Henri Leclerc, avocat. Gilles Perrault, historien communiste. Madeleine Rébériou, qui est toujours vivante. Eh oui. Philippe Solaire, tous ces gens-là ont adhéré au réseau Voltaire. Alors, je reviens, qu'est-ce que c'est que le réseau Voltaire ? Eh bien, le réseau Voltaire, c'est une opération qui consiste à réunir des personnalités, des autorités morales, pour faire abroger l'article 227-24 du nouveau code pénal.
Qui dit ?
Voilà. Qu'est-ce que l'article 227-24 du nouveau code pénal ? Eh bien, c'est un article qui permet aux associations de défense et de protection de la famille de porter plainte et de se constituer partie civile contre les marchands, les diffuseurs, les éditeurs, les imprimeurs de films, cassettes, messages, affiches, journaux, livres, photographies, à caractère, je ne dis pas le mot, mais vous m'avez compris, parce qu'il y a des enfants, je trouve que le mot est très vilain lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ça commence par un P.
Ça commence par un P, un O, un R, un N, un O.
Eh ben, dis-le.
Voilà. Donc, grâce à l'article 227-24,
il est jamais appliqué,
les associations... il vient d'être voté dans le cadre du nouveau code pénal, qui est adopté depuis quelques semaines. Grâce à cet article, les associations familiales, je pense, ou les associations de défense de la morale, comme je pense à la Cité Vivante, il y a d'autres associations, bien sûr, comme Renaissance Catholique, comme le Chrétienté Solidarité, des organisations comme ça, peuvent désormais porter plainte contre le marché de la pornographie, au même titre que des associations comme la GRIF peuvent porter plainte dans des affaires de racisme. Vous comprenez ? Ça, cette disposition, elle a semé la terreur dans la mafia du porno, dont le marché est à peu près de 12 milliards par an en France. C'est quand même pas mal, hein ? C'est beaucoup d'argent.
Excusez-moi, il y a plein de messages et je suis en train de les lire au lieu de vous écouter.
Ça, je vois ça. Bon, on s'arrangera hors antenne.
C'est très intéressant.
Et donc, cette mafia, elle a décidé de réagir, de faire abroger cette loi, mais elle s'est bien doutée que si tous ces mecs qui sont des chefs d'entreprise, qui fabriquent, qui impriment, qui enregistrent, qui filment et qui vendent des saloperies, ils se sont bien dit que s'ils allaient voir les députés en disant « Écoutez, nous, ça nous embête parce que ça nous empêche de gagner de l'argent », les députés allaient être gênés. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont constitué le réseau Voltaire, où ils ont collé plein de monde, et... en leur disant, c'est pour la défense des droits de l'homme, c'est pour la défense de la liberté de la presse, c'est pour la défense de la liberté d'expression qu'il faut vous mobiliser. Et ces gens-là se sont mobilisés. En fait, ils ne servent qu'à une chose, c'est à permettre à la mafia de la pornographie de continuer à gagner du fric. Ils ne s'en sont même pas aperçus eux-mêmes. Et parmi ces gens-là, donc, il y a Monsieur Pierre Bourdieu, sociologue ethnologue, donneur de morale.
C'est l'éthique.
Donneur de morale et de leçons d'éthique.
L'éthique en chef.
À l'école supérieure de journalisme de Lille. Autrement dit, quand ces jeunes journalistes vont sortir et commencer à travailler dans les journaux, vous voyez qui les aura formés. Je signale d'ailleurs que toute cette histoire, avec un détail supplémentaire que je m'en vais vous donner, figure dans un long article, mais passionnant, je ne crains pas de le dire puisque je l'ai écrit, du Libre Journal de la France Courtoise, numéro 38, qui est sorti ce soir des presses. Et c'est là le secret de ce que j'ai, de ce qu'on a appelé l'affaire Gaillot. C'est-à-dire, pourquoi Gaillot s'est-il fait tirer les oreilles par Duval, à votre avis?
Parce qu'il n'avait pas été bien sérieux.
Parce qu'il est dans le réseau Voltaire.
Ah mon Dieu!
Et que nos braves gens de l'épiscopat, ils sont extrêmement ennuyés de voir que M. Gaillot est rentré dans un coup comme ça, qui est un coup monté par la mafia du porno business. C'est bête.
M. Gaillot, il y passe après.
Voilà. Donc, première chose, premier motif de.
Ben justement, il y avait une auditrice qui demandait que vous parliez du scandale Gaillot. Avez-vous publié un papier dans votre journal?
Oui.
Vous avez répondu.
Oui.
Et pouvons-nous demander un spécimen, même si on est au chômage?
Écoutez, je ne vois pas pourquoi je refuserais de vendre mon journal aux chômeurs. Est-ce bien raisonnable? Pratiquement, c'est la plus grosse clientèle maintenant. Hein, on est un journal qui serait lu par tous les chômeurs, c'est un journal qui aurait vraisemblablement 5 millions de lecteurs. Je ne crois pas qu'il y ait un journal en France, même Ouest France, même le coopérateur de France, peut-être Télé 7 jours. Même pas. Alors, vous voyez. Donc, bien entendu, vous êtes invité à demander ce journal. Vous écrivez 139 Boulevard de Magenta, le Libre Journal de la France Courtoise. 139 Boulevard de Magenta, 75-010 Paris. Et vous mettez soit des timbres, soit un chèque de 30 francs. Et soit si vous n'avez pas de sous, vous mettez rien. Vous dites simplement, j'ai pas de sous, envoyez-moi votre journal. Comme on n'a pas de sous non plus. De toute façon, c'est pas 30 francs qui nous enrichiront. Hein. On est bien d'accord. Bon. Alors voilà, si vous avez des sous, vous en donnez, si vous n'en avez pas, vous n'en donnez pas. Et on ne peut pas faire plus simple. Voilà la première information que je voulais vous lire et qui
est quand même fort intéressante.
C'est intéressant. Alors, il y a une autre information.
Je ne sais pas jusqu'à dire qu'elle est gay-gay. Hein.
Il y a une autre information qui est encore plus extraordinaire dans Libération. C'est la suivante. Aux États-Unis, il y a un monsieur qui s'appelle Philip Zimmerman qui a inventé un système de codage inviolable des messages électroniques. Ok ? C'est-à-dire qu'avec son système qui est fondé sur des algorithmes, enfin c'est un petit peu compliqué, d'ailleurs je me contente de répéter ce que j'ai lu parce qu'à vrai dire j'ai rien compris. Mais c'est un système fondé sur des algorithmes, voyez ? Et c'est même le système algorithmique le plus extraordinairement compliqué qu'on ait jamais fait rentrer dans un ordinateur. Et avec ce système-là, eh bien ce monsieur peut fabriquer du courrier électronique, c'est-à-dire il peut interdire le décryptage pirate des fax, des messages qui passent par modem, c'est-à-dire les messages par téléphone, et dans un second temps, avec un petit système électronique, il pourra même rendre absolument impossible le piratage des communications téléphoniques. Alors, la conséquence de ça, c'est qu'à partir du moment où ce gars aura commercialisé son idée, il deviendra impossible à qui que ce soit, y compris à la police d'État, de procéder à des écoutes téléphoniques.
Ouais. Et puis trouveront un truc.
Non, c'est impossible. Ils expliquent très bien dans Libération pourquoi c'est absolument impossible. Parce que ça représente des centaines de milliards de... Voilà, il faut... Si on trouvait une puce informatique capable de tester 1 milliard de clés par seconde et qu'on fasse travailler simultanément 1 milliard de ces puces, il leur faudrait 10 000 milliards d'années pour trouver la bonne clé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. Donc personne ne peut décoder les systèmes encodés par Monsieur Zimmerman, sauf à avoir la clé. Eh bien, que croyez-vous qu'a fait le gouvernement des États-Unis, qui est un gouvernement démocratique comme tout le monde le sait? Eh bien, tout simplement, ils ont inculpé M. Zimmerman de crime fédéral et M. Zimmerman va probablement se retrouver en prison. Pourquoi? Tout simplement parce que le gouvernement ne peut pas supporter qu'un type ait inventé un système qui empêche les écoutes téléphoniques. À part ça, on est en démocratie, comme vous le savez. Enfin, si vous n'êtes pas au courant, je vous le confirme. Et même aux États-Unis, c'est une démocratie. Et d'ailleurs, la démocratie, vous savez d'où elle nous vient, la démocratie ? Elle nous vient de Grèce. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un curé. C'est le curé de Saint-Pierre et Saint-Paul de Sannois, dans le Val d'Oise, qui, le cinquième dimanche de Pâques, le 1er mai 94, a distribué à la sortie de la messe un tract qui dit la chose suivante. Ton Christ est juif, ta voiture est japonaise, ta pizza est italienne, ta démocratie est grecque, ta loi est romaine, tes vacances sont turques, tes chiffres sont arabes, ton écriture est latine, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Moi, je trouve que dans ces huit propositions, il manque une neuvième, c'est ton curé est un con. Mais c'est, il ne pouvait pas l'écrire, bien sûr. En tout cas, il y a huit propositions, elles sont toutes fausses, d'ailleurs. Non, elles sont toutes fausses, toutes, sans exception. Parce que moi, par exemple, ma voiture n'est pas japonaise du tout. Ma pizza n'est pas italienne, puisque je ne mange pas de pizza. Et que de toute façon, la pizza, c'est la pissaladière, qui est un plat français. Bon, etc. Donc, vous voyez, à propos de démocratie, ta démocratie est grecque. Et ça ne m'étonne pas, d'ailleurs. Hein ? Quand on connaît la démocratie française, quand on connaît les mœurs de certains hommes politiques et de certains ministres, je me disais qu'effectivement, il devait bien y avoir quelque chose de grec là-dedans. Il y a une autre information qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est la suivante. Prétoria, vous savez que maintenant, Prétoria, c'est le parangon des vertus antiracistes. Et alors, le gouvernement sud-africain de Prétoria a prévu l'amnistie pour les auteurs de violations des droits de l'homme commis sous le précédent régime. C'est formidable. Hein ? Il y aura donc une commission de la vérité qui va être constituée. Mais écoutez bien, devant laquelle les candidats à l'amnistie devront confesser leurs crimes, faute de quoi ils seront poursuivis. Autrement dit, le gars, il arrivera devant la commission. S'il dit « J'étais le pire des salauds », on lui dira « Mais monsieur, circulez ». Et s'il dit « Mais moi, j'ai rien fait », on lui dira « Allez en prison ». C'est bien comme truc.
C'est bien, voilà. C'est original.
Il y a une autre information juste à côté. Alors là, je vais lire, je vais vous demander d'être très attentif et je ne vais faire aucun commentaire. C'est dans Libération. Hein. C'est un papier intitulé, non, je vais même pas lire le titre, c'est un papier qui parle du Japon. Et du fait qu'au Japon, il y a un gars qui s'appelle... il a un nom japonais, d'ailleurs, donc si je vous le dis pas, ça vous fera pas perdre grand-chose, mais il s'appelle quand même Yoshio Oge, ou Yoshio Ogai, qui est un responsable du parti, responsable du Parti libéral démocratique, la plus importante formation politique du pays. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle « La stratégie électorale d'Hitler, une bible pour une victoire certaine dans les élections modernes ». Ou alors il dit, vraiment, Hitler est quelqu'un d'absolument répugnant, ça c'est tout à fait, il a bien compris l'histoire, mais il dit quand même qu'il était assez fort politiquement. Alors ça provoque un scandale, ce qui est normal d'ailleurs, puisque tout le monde sait que Hitler était...
il était fou.
Il était fou, c'était un imbécile, il était impuissant. Tout le monde sait ça, vous êtes au courant ?
J'en ai entendu parler.
D'accord. Mais le journaliste de Libération, qui a écrit cet article, termine l'article de la façon suivante. La publication de cet ouvrage a suscité un malaise d'autant plus fort que certains politiciens japonais affichent une attitude ambiguë, sinon complaisante, à l'égard de la conduite de leur pays durant la Seconde Guerre mondiale. Et le ministre de la Justice a dû démissionner le mois dernier après avoir affirmé que les viols de femmes chinoises pendant l'occupation n'étaient que des bobards. Bon, point. Dernière phrase de l'article. De nombreux livres et journaux affichent sans complexe un antisémitisme virulent qui peut paraître étonnant dans un pays sans juifs. Libération, mercredi 8 juin 1994, page 20, deuxième colonne. Milieu de la deuxième colonne. Hein ? Oui ? Moi, je trouve curieux qu'on puisse imprimer des choses pareilles. Je répète la phrase. De nombreux livres et journaux affichent sans complexe un antisémitisme virulent qui peut paraître étonnant dans un pays sans juifs. C'est bizarre, non ? Vous ne trouvez pas ça bizarre ?
C'est très très bizarre, ceci. Oui.
Je ne sais pas ce qu'en pense M. Gobert. Il y a un autre truc qui est très rigolo. Il y a une interview de M. Ça y est, j'ai un trou. le jeune homme d'extrême droite, Longuet.
Ah, Longuet, l'un des jeunes hommes d'extrême droite.
Oui, qui est devenu ministre. Alors, vous savez qu'il a des ennuis, Longuet, parce que il y a un juge qui a dû le prendre pour un élu socialiste. Il ne devait pas bien connaître son bottin des députés. Et il a pris pour un élu socialiste, donc il fait une enquête sur l'origine de sa fortune. Alors, Libération interroge M. Longuet. Et lui dit, mais quand nous vous avions proposé de publier votre patrimoine avant votre entrée en politique et après, pour des raisons familiales, vous aviez refusé. Alors, cela aurait pourtant pu être un bon moyen de désamorcer la polémique. Et Longuet répond, effectivement, mais je déteste ce déballage, je le fais pour répondre à des insinuations que je juge injurieuses. Enfin, s'il appelle ça des insinuations, moi je veux bien, mais c'est quand même des insinuations un peu massives. Enfin, en tout cas, donc il n'a pas voulu. Mais plus loin, il dit la chose suivante. Libération lui dit, pensez-vous être victime d'une manipulation? Et il répond, écoutez bien cette phrase, c'est extraordinaire. C'est fou ce que ça révèle de la pensée politique, de la pensée profonde des hommes politiques en France aujourd'hui. Écoutez, Gérard Longuet. J'ai été trésorier de 1982 à 1986 et je sais comment tous les partis ont été financés avant 1990. Point. C'est pour cela que j'ai souhaité une loi d'amnistie. C'est pas beau, ça?
C'est quand même lui le plus fort. Hein,
il est fort, ce type. Je sais comment on a financé les partis. C'est pour ça que je suis pour l'amnistie. Bah, tu penses, évidemment. Évidemment. Mais ils avouent. Ils se gênent pas. Hein. Et ça, c'est M. Longuet. Il est PR. Il est président du PR. Hein, c'est le monsieur qui vient à la tribune et qui dit que la présence d'un parti comme le Front National dans un Parlement est une honte pour la démocratie.
Mais oui. Est-ce qu'il siège au comité d'éthique, là, dont vous aviez parlé tout à l'heure?
Il n'y a pas son nom dans le comité d'éthique en toc. Mais ça viendra peut-être. Et puis alors, il y a encore une information qui est moyennement drôle, mais qui est quand même intéressante. Moi, j'ai cru qu'en France, comme dans beaucoup de pays du monde, hélas, il y avait trop de handicapés. Et que la France n'avait pas les moyens de venir en aide à tous les handicapés. On est donc qu'il y en avait qui étaient vraiment au bord de la misère et parce qu'ils ne pouvaient pas travailler à cause de leur handicap. Eh bien, pas du tout. Il n'y a pas assez d'handicapés en France. La preuve, c'est que M. Gilibert, qui était secrétaire d'État aux handicapés entre 1990 et 1992, socialiste, bien entendu, là, le juge d'instruction ne s'est pas trompé. Monsieur Gilibert avait subventionné une association, l'AIPPH, qui n'avait aucun adhérent. Et donc, qui fabriquait des handicapés fantômes. Mais c'est bien la preuve qu'il n'y en a pas assez. Parce qu'on est obligé d'en fabriquer des faux. Et alors, ils ont cette AIPPH, qui n'avait aucun adhérent. Faute d'handicapés, elle n'avait pas assez sans doute, eh bien, elle a touché des subventions. Et ces subventions, nous dit la PJ. La PJ dit, on n'a trouvé ni adhérent, ni cotisation. Forcément, quand il n'y a pas d'adhérent, il n'y a pas de cotisation. Mais des subventions, et des salariés, et des dettes. Et le journaliste ajoute, la PJ découvre que l'AIPPH sert de taxi, c'est-à-dire de société de fausse facturation, pour payer les émoluments des chargés de mission du secrétaire d'État aux handicapés, pour financer parfois des réceptions à son domicile de Saint-Cloud. Lui aussi, il habite Saint-Cloud. Embêtant. Pour régler les factures de fleurs gracieusement offertes à l'épouse d'un directeur de télévision, pour payer des hôtesses d'accueil, voyez-vous, probablement pour ce qu'on appelle des tableaux vivants, je ne sais pas, on ne sait pas, hein, pour payer des voyages, etc., etc. C'est bien.
Oui, hein, c'est vraiment scandaleux.
Comment c'est scandaleux?
Oui.
Il y a du fric qui traîne, ils les ramassent, ils ne sont pas fous, les socialistes. Ils sont socialistes, c'est suffisant comme ça. Ils ne sont pas forcés d'être complètement idiots. Il y a encore une information, une dernière. Pourquoi ça vous intéresse pas, ce que
non,
je réponds?
Non, c'est parce que l'heure tourne.
Non, mais on a tout notre temps. Je vais donner la parole tout de suite au président de Coq. pour nous parler de son livre. On va sortir du sujet, puisqu'on va parler de politique sérieuse maintenant. Mais je voudrais quand même donner une dernière information. À Vitrolles, alors Vitrolles, c'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est donc en France, enfin en France, dans l'Hexagone.
Dans la France occupée. Tiens, quelqu'un nous dit, en ce qui concerne l'immigration, ne pourrait-on pas remplacer ce mot par envahissement et pillage ?
Non, on n'a absolument pas le droit. D'ailleurs, c'est pas vrai. Il n'y a aucun rapport entre l'immigration et la délinquance.
Très aucun. Bien. Monsieur, vous avez eu votre réponse.
Ouais. En revanche, là, à donc Vitrolles, Bouches-du-Rhône, un imam, parce qu'il y a un imam à Vitrolles, a
comme
été
partout.
Écroué. Oui. A été écroué pour coups et blessures sur sa fille. Il était responsable de la mosquée. Et il enfermait, séquestrait, retenait et malmenait sa fille de 17 ans. Il l'avait enfermée dans une chambre aux fenêtres cadenassées. L'adolescente a réussi à gagner une autre pièce et à sauter dans la rue depuis le deuxième étage et à se sauver. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il faisait ça à sa fille ? Parce qu'un imam musulman, je pense que les musulmans sont comme tout le monde, ils aiment leurs enfants. Mm-hmm. C'est justement parce qu'il aimait sa fille. Parce que quand on lui a demandé pourquoi il faisait ça, il a dit « c'est pour l'empêcher de devenir comme les autres de la cité
oh. ».
Vous voyez ? Donc il n'est pas si mal cet imam. Il y avait peut-être d'autres solutions. Par exemple, il y aurait une solution qui, à mon avis, me paraissait beaucoup moins violente et beaucoup plus définitive, c'était de foutre le camp de la cité et de retourner
voilà.
dans son devoir d'origine, ce qui était une bonne idée.
Oui.
Je suis certain que s'il était retourné dans le pays d'où il vient... Il n'aurait pas eu besoin de cadenasser les fenêtres de l'appartement. D'ailleurs, il n'y aurait probablement pas eu de fenêtre.
Mais là, c'était plus simple. Hein.
Et il était tranquille, il n'était pas obligé de séquestrer sa fille. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il y a quand même une autre information, c'est que, vous savez, il y a ce jeune gardien de la paix qui s'appelle Pascal Vapaille, qui était dans une boutique de change quand deux jeunes sont entrés dans la boutique de change, semble-t-il, dans l'intention de dépouiller le changeur, mais on n'a pas de preuves, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de dire ce qu'ils voulaient. Il y a eu une petite bagarre, et le policier Vapaille, et il a sorti son arme de service, et il a tiré sur ces jeunes gens, et il les a tués tous les deux, ce qui est extrêmement triste. Et ben, il est en prison, il est incarcéré, parce qu'il n'était pas en service. Donc il faut savoir, messieurs les policiers, que vous n'avez le droit de tuer...
De vous défendre.
Qu'à deux conditions. Vous avez le droit de tuer.
De vous défendre.
Si vous tuez un jeune blanc, français, exemple Sébastien Desieux, aucun problème, vous risquez rien. Tout ce que vous risquez, c'est de ramasser un télégramme de félicitations et la médaille d'honneur de la police. Et en service. Donc, hors service, quand vous voyez une agression, n'intervenez surtout pas. Parce que s'il arrive malheur à l'agresseur, la chose que vous pouvez faire, peut-être, c'est lui donner un coup de main. S'il veut dépouiller une petite vieille et qu'elle résiste,
vous assommez la petite vieille.
Vous assommez la
bravo.
Petite vieille. Mais pas avec votre arme de service.
Non.
Parce que elle n'est pas destinée à ça. Voilà. Après cette leçon d'actualité, on va.
Attendez,
écouter...
il y a une petite
oui.
réponse sur oui. votre. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de juifs en.
Je parlais de ça, moi.
Vous avez dit qu'il n'y avait pas. Contrairement à ce que vous dites, il y a des juifs au Japon. Ils s'y sont réfugiés pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Non, je n'ai pas du tout dit ça. Alors, je suis désolé. Je tiens à ce que les choses soient parfaitement précises parce que je n'ai pas beaucoup de temps à perdre devant les tribunaux. Donc, voilà exactement ce que j'ai lu dans Libération. J'ai lu, je le rappelle, en page 20 de Libération du mercredi 8 juin 1994, deuxième colonne, sous le titre « L'histoire », j'ai lu la phrase suivante. « De nombreux au Japon, sous-entendu, puisque c'est un papier qui parle du Japon, de nombreux livres et journaux affichent sans complexe un antisémitisme virulent qui peut paraître étonnant dans un pays sans juifs. » Moi, ce que j'ai compris, c'est que l'antisémitisme n'est pas étonnant dans un pays où il y a des juifs, par conséquent.
C'est QFD.
Je sais pas. C'est le journaliste de Libération qui sous-entend cette chose abominable. Je voulais simplement souligner... que dans Libération, il y a parfois des choses un peu surprenantes, mais ce n'est pas mon affaire, c'est celle de M. Gobert.
De Libération. Et puis alors, il y a quelqu'un qui prétend que je galège, que je fais de la désinformation.
Quand vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui prétend que je gage, j'ai cru qu'il
allait dire
que je gatouille.
Mais non, pas déjà. Ouais. Donc, que je fais de la désinformation parce que je dis que les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 22h dimanche. Ouais. Mais c'est vrai. C'est très vrai, de 8h du matin à 22h.
Vous pouvez tout à fait faire confiance à Victoria, c'est une démocrate authentique. Elle est au courant des horaires d'ouverture Comme les amateurs de foot savent les horaires d'ouverture des terrains, elle connaît les
horaires. N'attendez pas les résultats tout de suite, parce que pour dépouiller avec 23 listes, à partir de 10h du soir partout, nous souhaitons bien du plaisir aux scrutateurs.
D'ailleurs, entre nous, tiens, puisque vous venez d'employer le mot, je voudrais quand même bien dire à quel point il est scandaleux d'appeler dépouillement une cérémonie qui consiste à faire sortir des urnes le nom des élus. Hein. C'est vraiment... c'est honteux. Non, vous ne savez pas ?
C'est un joli mot.
On va écouter un peu de musique, tiens.
De sa belle histoire, et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là. Je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor des princes fous. La vie n'est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies s'apaisit et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui le rassure pas. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime.
Président de Coq, permettez-moi de vous saluer.
Bonsoir, Président.
Alors, je reçois donc ce soir le président Basile de Coq, qui est président d'honneur à vie.
Oh, pas du tout.
Pas d'honneur.
Président à vie autoproclamé de Jalon.
Du groupe Jalon. On connaît le groupe Jalon. J'ai déjà reçu plusieurs fois les représentants les plus estimables et même les plus lamentables du groupe Jalon.
Sauf les gens du centre et de l'aile gauche qui refusent systématiquement de venir dans votre radio nazi-fasciste.
C'est vrai. Je suis obligé de reconnaître qu'effectivement, je me suis... Mais nous avons quand même reçu des jeunes prolétaires fort sympathiques, fort avenants d'ailleurs.
Oui, mais c'est du lumpen prolétariat. Parce que les vrais prolétaires organisés dans Socialisme et Barbarie et dirigés par mon camarade Jean-Paul Pol Pot refusent de venir tirer les bottes de la réaction.
En revanche, nous avons très couramment, et pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, si j'ose dire, la visite des représentants de Nazisme et Dialogue.
Jalon est un mouvement démocratique dans lequel coexistent le meilleur et le pire, c'est-à-dire le mouvement monarchiste Restauration Rapide, et puis le CDPD, le Centre Démocratique pour le Progrès et le Développement, et puis le mouvement Vénération Mitterrand, qui est partisan d'un troisième septennat pour le président de la République, et puis le Rapourri, le Rassemblement pour Rien, qui est un mouvement gaulliste, présidé par Frigide Barjot, ma fiancée.
Fort sympathique personne.
Oui, par ailleurs.
Et
puis effectivement, Nazisme et Dialogue, qui est un mouvement que je qualifierais d'aile droite de Jalon, et qui est lui-même divisé en deux sous-tendances, la tendance nazisme et la tendance dialogue. Et puis d'autres courants qui se développent actuellement. Il y a un courant psychanalytique qui s'appelle le chant du cygne, CHAMP, bien sûr.
Même S, d'ailleurs, pratiquement.
Oui, bien sûr, S-I-G-N. Et puis un courant économiste qui s'appelle, qui n'a pas de nom encore, mais dont le président est Milton Friedman. Ça prend tournure. Je dois dire que on recouvre à peu près tout le spectre de la pensée. Et bien entendu,
et ça n'est pourtant pas un mouvement fantôme.
Ah, sûrement pas, non. Mais c'est un mouvement dont une partie, je suis bien obligé de vous le dire, a décidé de boycotter cette antenne.
Mais je le regrette, mais enfin, l'essentiel, c'est que j'ai le président, puisque de toute façon, c'est lui qui a le fric.
Le président a le fric et est au-dessus des partis, et il va prendre les auditeurs là où ils sont.
Voilà. Donc, quand je disais que Jalon, bien que recouvrant le spectre, tout le spectre de la politique n'est pas un mouvement fantôme, je parlais d'or comme d'habitude, puisque Jalon a publié plusieurs journaux, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de mouvements politiques. On sait que le Front National publie National Hebdo, l'Humanité publie le Parti Communiste Français, ou le contraire, je ne sais plus exactement dans quel sens ça marche.
L'Humanité, c'est un journal, effectivement.
Ah bon ?
Oui, oui.
Je vous remercie de nous fixer les idées sur ce point.
Un journal quotidien paraissant tous les jours.
Ah, ce qui est vraiment... c'est merveilleux.
Oui, oui, oui.
C'est
là, je ne parle que du contenant. J'ai rien dit sur le contenant.
Non, d'ailleurs, on ne parlera pas du contenu puisque c'est à peu près l'heure du dîner. Enfin, dans les familles où il y a beaucoup d'enfants. Alors, donc, le mouvement Jalon a publié plusieurs journaux. Il a publié Le Monstre, L'Aberration, Franche Démence, Le Loup-Garou Magazine, Coin de rue Imagimonde, Le Figagaro et Le Cafard Acharné, qui est le dernier produit de la maison en ce qui concerne la presse. Et qui était trop réussi, il faut le dire. Il faut rappeler quand même que c'était tellement bien réussi.
Ça a été un drame pour les lecteurs du Canard, qui ont été abusés et qui ont acheté massivement le pastiche au lieu d'acheter l'original, et qui s'en sont rendus compte vers la page 6. Pour un journal qui en compte 8, c'est un peu embêtant.
C'était limite quand même.
Ça dit, pour nous, c'est un beau succès de presse, même si c'est en fait une escroquerie. Mais elle n'est pas condamnable, on n'a pas fait exprès de ressembler à l'original.
C'est un peu comme la politique, c'est une escroquerie, mais il n'y a pas de loi contre.
Ah, moi, je ne parlerai pas comme ça de la politique. Le livre Politique Mode d'emploi, là, qu'on vient de publier chez Hors Collection, est plutôt un livre d'utilité publique. Puisque...
Alors, Hors Collection, c'est le masque des presses de la cité.
Une des collections, voilà. Comme le nom ne l'indique pas, c'est une des collections du presse de la cité.
En général, quand il faut des choses amusantes, il publie là-dedans.
Oui, mais là, c'est une erreur, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'un livre amusant, il s'agit d'un livre d'utilité publique.
Alors, ça s'appelle Politique Mode d'emploi, et c'est le deuxième livre du groupe Jalon, puisque le premier... qui était lui publié aux éditions Olivier Orban, était intitulé Élisez-les tous. C'était à l'époque des
présidentielles précédentes en 88.
Élisez était écrit naturellement E-L-Y-S-E-Z.
Oui, et c'est un livre où on proposait une petite réforme constitutionnelle consensuelle qui soit de nature à réconcilier les Français. On proposait que tous les candidats à la présidentielle soient élus ensemble et qu'ils gouvernent chacun 2 heures par jour.
Et ça n'a curieusement pas été...
Pour des raisons qui m'échappent, cette mesure de bon sens, cette mesure consensuelle, n'a pas été adoptée et on continue à voir la France déchirée en plusieurs camps opposés, voire même hostiles.
24, pour ce qui concerne les européennes, puisqu'il y a 23 partis... Enfin, 23 listes, je crois, qui se présentent.
Ma préférence personnelle, je peux vous le dire, puisque vous ne me l'avez pas demandé, va au parti de la loi naturelle et à son représentant Benoît Frappé, qui nous explique qu'il suffit de sauter sur des matelas en trampoline pour faire disparaître la guerre, le chômage, le sida, la maladie, la mort et je sais pas quoi, le lundi au soleil. Enfin...
Donc le parti de la loi naturelle.
Vous connaissez pas ça ?
Si, si, j'ai vu les affiches de Monsieur Frappé. J'ai trouvé.
Et il est formidable. Et puis alors, son nom n'est pas une escroquerie.
Non, pas du tout. On peut dire qu'il annonce la couleur.
Il annonce l'arc-en-ciel, car c'est son symbole.
Alors, en tout cas, donc ce livre, Politique mode d'emploi, n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un canular. C'est quelque chose de très sérieux. Et d'ailleurs, c'est forcément sérieux, puisque c'est placé sous, je dirais, le parrainage du Père Ubu, dont vous citez en exergue une phrase qui résume le programme politique de beaucoup de personnalités actuelles et passées. C'est « Avec ce système, j'aurais vite fait fortune, alors je tuerai tout le monde et je m'en irai ».
Oui, eh bien c'est en effet l'espèce de déclaration d'intention de Ubu Roy dans le livre d'Alfred Jarry. C'est le programme que se propose d'exécuter, c'est le cas de le dire, Ubu quand il sera roi. Alors, ce que je voudrais dire à propos du livre, parce que cette citation est évidemment un clin d'œil, mais il ne faudrait pas croire que le livre est une plaisanterie. À l'heure où le chômage frappe où il veut et quand il veut, 3 millions de personnes selon la police et 5 millions selon les organisateurs, et Jalon propose un guide qui permet de se lancer dans la carrière de politicien, parce que peu de gens le savent, mais en réalité, et c'est là qu'est le message d'espoir, pour réussir en politique, il n'est pas besoin d'être intelligent. Un seul exemple, prenez les carrières de Noir, de Léotard, de Madame Royal. S'il fallait être intelligent pour réussir, il n'en serait pas là. Donc il y a un truc, il y a plusieurs trucs. Le métier de politicien, en fait, est à la portée de vous, de moi, c'est-à-dire de n'importe quel crétin venu. À condition de suivre des règles simples, mais strictes, qui sont exposées dans le livre. Donc, 79 francs pour une carrière de ministre, c'est pas cher.
J'avais oublié, effectivement, de citer le titre. En général, on le fait à la fin de l'entretien, mais on peut rappeler, donc, puisque je pense que nos lecteurs l'ont déjà oublié, que c'est un livre qui vaut 79 francs. Alors, ce qui montre le sérieux, effectivement, de ce livre, c'est le fait qu'il est préfacé par Alain-Olivier Duraimond. Qui n'est pas n'importe qui, car on va donner ses titres peut-être. Il est chargé de conférences et d'honneur à la Fondation nationale des sciences politiciennes, consultant permanent auprès du Figaro, de l'Aberration et de TF1 2, 3 et 4. Il est chevalier de l'Ordre national du mérite audiovisuel, chef du service des commentaires de sondage à l'Institut Hypnos. Il touche 100 000 francs par mois, multiplié par 15 mois, c'est ce qu'il a mode dans la presse. Donc un mois de vacances d'été, 15 jours de vacances l'hiver. Je le rappelle quand même, et les indemnités en cas de licenciement se montent à un mois de salaire par année de présence, jusqu'à 15 ans, et c'est négociable par la suite. Et M. Alain-Olivier Duraimond est également propriétaire d'un vélo Solex restauré. Il a été vu à la télé, entendu à la radio, et lu et approuvé à l'Élysée Matignon. Donc on peut vraiment s'appuyer sur lui. Et il expose, alors ce qui est très intéressant, effectivement, parce que c'est vrai, c'est très curieux, mais c'est vrai, que, au fond, ce livre, pour la première fois, prend en considération le fait totalement original que la politique, c'est un truc pour gagner du fric quand vraiment on a tout raté, quoi.
Pas nécessairement. Écoutez, il ne faut pas caricaturer, vous présenter ça d'une manière un peu péjorative. La vérité, c'est que il y a eu la préhistoire de la politique où on mettait sa carrière au service de ses idées, où on se dévouait, où c'était une sorte d'apostolat. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle la politicianologie, qu'on pratique dans le livre, qui consiste à étudier le métier de politicien moderne. Et le métier de politicien moderne repose sur un certain nombre de principes simples qu'il faut suivre. Et si on les suit, je garantis à tous une carrière politicienne réussie. Bon, la première chose à faire, c'est bien sûr de mettre ses idées au service de sa carrière et non pas l'inverse. Si on fait le contraire, on est condamné à la carrière d'un Pierre Mendès France qui a fait 60 ans de vie politique et qui a passé 7 mois et demi au pouvoir. Vous comprenez ? Donc c'est complètement redoutable. Oui, si on fait l'inverse, et l'idéal c'est évidemment un modèle du genre feu Edgar Faure, qui est un de nos modèles à jalons, comme vous le savez, ou un homme comme Jean-Pierre Soisson, qui a été successivement ministre de Giscard, ministre de Mitterrand, créateur d'un mouvement de centre-gauche, ensuite élu avec les voix du Front National au Conseil Régional de Bourgogne en tant que président. C'est ça, l'important, mettre ses idées au service de sa carrière et rester toujours, autant que possible, le plus près du centre, puisque c'est ça qui arrive le plus souvent au pouvoir, en force d'appoint.
À propos d'Edgar Faure, il faut rappeler quand même qu'il avait cette phrase extraordinaire qui résumait parfaitement son comportement à travers toute sa vie. Il disait « c'est pas les girouettes qui tournent, c'est le vent ».
Bien sûr, mais ça je crois que c'est une chose à laquelle il faut... effectivement penser souvent, parce que si on s'accroche, contrairement à Edgar Faure comme un Bindès France, si on s'accroche à ses principes, eh bien on reste comme le fou accroché au pinceau quand on a retiré l'échelle.
Oui.
Et dans ce cas-là, il faut avoir d'autres sources de revenus si on veut faire de la politique.
C'est ce que Monsieur Longuet explique très bien dans son interview à Libération.
Si on veut faire de la politique un métier, donc un métier lucratif, parce que sinon on voit pas l'intérêt, alors il faut savoir s'adapter. Et s'adapter à quoi ? S'adapter, je dirais, au marché. Bien choisir son camp en politique, c'est le choisir en fonction d'une étude de marché, et puis des débouchés et des perspectives. Cela dit, les placements politiques ne se font pas comme à la bourse, c'est-à-dire ils se font à court terme. Par exemple, actuellement, il est clair qu'il faut acheter du Balladur, même si c'est pour, dans 6 mois ou dans 1 an, les revendre, les actions Balladur, au profit d'actions Chirac, Delors ou autres.
D'autant qu'en ce moment, on sait que pour les gens qui achètent, en tout cas en se faisant prendre... les actions Chirac, ils ont de gros ennuis. On l'a vu avec le collaborateur de Madame Alliot-Marie qui a été chassé de son... Jean-François Probst qui a été chassé de son poste pour avoir acheté du Chirac.
Alors là, il a acheté du Chirac. Alors, moi, je dirais, c'est certainement assez original et courageux de sa part, mais je ne sais pas si c'est bien raisonnable. Moi, j'aurais attendu au moins le mois de novembre-décembre pour acheter du Chirac. À l'heure actuelle, ça paraît vraiment un choix difficile. Cela dit...
C'est en tout cas pas un délit d'initié.
Ah non, ça c'est sûr. Ouais. Moi, je pense que c'est un vrai pari, mais je considère que dans une carrière de politicien, on ne fait pas de pari aussi dangereux que ça.
Mauvais point pour Monsieur Probst.
C'est-à-dire son idéalisme chiraquien, visiblement, l'a un peu emporté. Cela dit, les principes que nous donnons dans le livre, il est évident que il faut... Bon, c'est aussi une question de personnalité. Si on n'a pas la souplesse d'un Edgar Faure, si on n'a pas la souplesse d'un Jean-Pierre Soisson, ou je dirais même d'un Olivier Stirne, même si lui, évidemment... est un peu trop crétin pour que sa souplesse le serve vraiment. Mais si on n'a pas cette souplesse-là, c'est pas la peine de faire une carrière.
Je suis obligé d'émettre une protestation au nom des nombreuses associations de crétins qui existent dans ce pays. Je peux pas admettre que vous les assimiliez à monsieur dont vous venez de donner le nom. Là.
Je le cite au hasard parce que prenez l'exemple de notre ami Michel Noir que dans Jalon nous avons toujours défendu. Bien, malgré tout, sa bêtise est arrivée à un niveau un petit peu rédhibitoire maintenant parce que inventer la morale en politique en 1986 et puis sombrer dans 150 affaires de fausses factures peu après, c'est assez gênant. Bon, je voudrais dire autre chose, puisqu'on parle de bêtises, il y a une erreur à ne pas faire, c'est de mal choisir ses collaborateurs quand on se lance dans la carrière politique. Et le plus dramatique, ce n'est pas de prendre des collaborateurs mauvais, des collaborateurs stupides ou inutiles. Le plus grave, c'est de prendre des collaborateurs qui sont plus intelligents que vous. Et c'est ce qu'a fait Jacques Chirac en prenant Balladur comme collaborateur. Et ça fait 10 ans qu'il l'a fait, et c'est seulement depuis 1 an qu'il commence à se rendre compte, un peu tard, qu'il s'est planté. Parce que Jacques Chirac a pris auprès de lui comme conseiller Édouard Balladur, et on explique dans le livre que c'est vraiment complètement contre-productif, puisque à la première cohabitation avec un président de la République hostile et décidé à se représenter et une majorité de 2 voix,
Édouard Balladur a dit à Jacques Chirac, vas-y. Et à la deuxième cohabitation, avec un président légèrement fatigué, qui n'a pas l'intention de se représenter, une majorité de 484 députés, et l'horizon dégagé, Édouard Balladur a dit à Jacques Chirac, j'y vais pas, c'est trop dangereux, je me dévoue, et toi, je te garde la place pour 95. Et Jacques Chirac a été suffisamment crétin pour le croire, et il a les conséquences, comme disait Bainville.
Ah oui, alors c'est un peu la question que je voulais vous poser. Donc, il semblerait que vous accordiez plus de discernement à M. Balladur qu'à M. Chirac dans cette affaire.
Ah ben, ça me paraît assez clair. Il me semble que Jacques Chirac s'est fait rouler dans la farine par Édouard Balladur. Et si ça n'avait pas été lui, ça aurait été quelqu'un d'autre. Parce que... Quand on est crétin, on trouve toujours quelqu'un pour se... C'est-à-dire, quand on est crétin, il faut s'entourer de gens encore plus crétins. Mais à arriver à un certain niveau de crétinerie, ça devient impossible.
Alors, vous sentez peut-être un peu d'agitation dans le studio. C'est parce que Martin Pelletier vient de faire son entrée, accompagné de Philippe Colombani, alias Aramis.
Et ils ont été accueillis avec joie.
Ils ont été accueillis par Caramel, qui est mon chien.
C'était presque à l'heure quand je l'ai rencontré.
Qui a agité ses chaînes.
Donc quand vous entendez des bruits, des grognements, des craquements, c'est qu'il est en train de manger un micro ou quelque chose de genre. Mais
ou des messages.
Rien de bien grave. Bon, pour en revenir au livre tout à fait passionnant du groupe Jalon, Politique, Mode d'emploi, et tout à fait utile, je voudrais quand même souligner que c'est un livre qui donne... Le cursus qui explique comment ça fonctionne, c'est-à-dire il se contente pas de dire il faut faire de la politique parce que ça rapporte plus et c'est plus facile. Il explique aussi qu'il y a des trucs. Par exemple, le premier chapitre, enfin l'un des tout premiers chapitres, explique qu'il y a ce que c'est que le bien-être au sens de la naissance politicien. Et que par exemple, il y a un truc, c'est qu'il faut être d'origine modeste.
Oui, il faut être d'origine modeste, ou alors il faut paraître d'origine modeste, ou alors il faut faire réécrire sa biographie de manière à avoir l'air d'avoir été d'origine modeste, ou bien alors il faut avoir un bon rapport avec le peuple, c'est-à-dire prêter son vélo au fils de son garde-chasse, ou alors on peut essayer de faire peuple comme Giscard il y a une vingtaine d'années... en portant un pullover, en jouant de l'accordéon et en dînant avec des éboueurs dans des poubelles je sais pas quoi. Dans des
jamais dîné dans une poubelle jusqu'à. Il avait un chandail, il n'avait pas de pullover.
Je sais pas si jamais allé dîner avec.
Il avait un tricot, un gilet.
Je ne vous ai pas interrompu, alors ne m'interrompez pas.
Je vous en prie, monsieur.
Alors, pas vous et pas ça.
Pas vous, pas ça.
En tout cas, pas maintenant.
Vous avez eu votre temps d'antenne. Non, alors il y a une autre chose qui est très intéressante, c'est tout le chapitre qui concerne les idées, et où en fait vous dites, bon, il faut surtout pas, comme vous le disiez, être attaché aux idées, sauf à se retrouver dans la position du fou attaché à son pinceau, mais en revanche, il y a quand même un système qui consiste à changer de camp quand il le faut, voire même, dites-vous, à changer son camp.
Ah mais ça c'est la... Bon, changer de camp, c'est à la portée de tout le monde. Vous parliez tout à l'heure du président Longuet, qui a commencé à l'extrême droite, comme d'ailleurs Jean-Pierre Chevènement. Ils se sont recyclés en se rendant compte quand même que l'extrême droite... Et ça m'en lui de le dire au milieu d'un aréopage de dinosaures de la politique qui n'ont toujours pas compris que c'est en se rapprochant du centre qu'on a des chances d'aller à la soupe le plus souvent. Mais bon, il faut bien que vous le sachiez ou
le problème que dans le cas de Pelletier,
ça traverse votre paléocortex un jour.
Mais quelle soupe ? C'est ça le problème.
Dans le cas de Pelletier, c'est rédhibitoire parce qu'il y était et il s'en éloigne. Donc il était à la gamelle et le voilà qui prend son chemin vers le Sahel.
C'est quelqu'un qui n'a rien oublié, rien appris et rien compris.
Je vous en prie, monsieur.
Pas vous.
Si ça continue, quand on sera dans un camp de concentration, je renverserai ta gamelle, Martin.
Mais de toute façon, il n'aime pas la soupe.
Non, mais je voudrais que ce débat reprenne un caractère de dignité.
Il suffit de faire taire les autres. Voilà.
Alors, j'ai remarqué que vous aviez recensé quelques exemples du système qui consiste à réussir une carrière en ne s'accrochant pas à ses idées.
Ah ben, bien sûr, oui.
Et ça, c'est brillant. Par exemple, il y a un homme politique, bon, je ne vais pas citer son nom pour ne pas lui faire de publicité, qui a dit « Un homme politique ne démissionne pas ». le 3 juin 76, il a dit ça, et le 25 août 76, c'est-à-dire deux mois et demi plus tard, il a dit « Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre, et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin.
Ouais. »
Donc, il a mis deux mois et demi pour passer de l'homme politique qui ne démissionne pas à l'homme politique qui démissionne.
Mais c'est le même qui avait dit...
Il a dit « Le caractère spécifique de Paris ne permet en aucun cas d'envisager un maire élu. »
Et peu de temps après, il était élu lui-même maire de Paris.
Il a été élu maire de Paris. Donc, on ne dira pas son nom.
Non,
parce
il
ne
veut pas.
Vous avez vous prenez des risques.
Non, mais en plus, oui, c'est vrai que c'est assez risqué. Puis en plus, il ne faut pas l'accabler. Et le même a dit le 3 mai 1969, Giscard n'a été exceptionnel que dans la trahison. Et le 28 mai 1974, donc là, il y avait quand même 5 ans, il a dit « Valéry Giscard d'Estaing est un des rares hommes d'État actuels. » En fait, c'est un homme d'État exceptionnel, vous voulait-il dire.
Et on trouve... c'est-à-dire, ce que je tiens à dire, c'est que dans ce livre, toutes les citations, tout ce qui est raconté, toutes les illustrations, tout est absolument authentique. Les mots que vous rapportez, les événements... il n'y a rien qui puisse prêter à confusion, je n'ai rien inventé, tout est extrait de la réalité politique et notamment de la vie politique des 20 dernières années.
Alors on ne va pas naturellement lire tout le livre parce que ça vous empêcherait d'en vendre et c'est quand même l'objectif principal de votre présence ici, c'est de vendre des livres. Vous n'êtes pas venu parce que vous nous aimez.
Ah, je suis venu vendre.
Oui, c'est ça. En fait, je vois bien que vous ne pouvez pas nous sentir.
Non, c'est pas ça. Je vous ai dit que vous êtes des dinosaures de la politique. Je vous entends pas.
Est-ce qu'on peut poser une petite question, monsieur Basile Lecoq?
Oui, à condition qu'elle soit...
Et un petit commentaire.
Je voudrais simplement dire, à condition qu'elle ne soit pas gênante...
Ah non, c'est... Parce on veut savoir des choses très pratiques.
Si c'est une question gênante, après, mes émoluments vont être... il m'a prévenu avant l'émission, il m'a dit, naturellement, si je suis...
Mais vous ne les avez pas vus, alors vous ne pouvez pas être coupable.
Mes émoluments ou les
questions? Non, les deux.
Ni l'un ni l'autre.
Avez-vous pensé à citer Suicide mode d'emploi dans la bibliographie de votre livre?
C'est-à-dire que Suicide mode d'emploi, c'est un livre pour les gens désespérés, et mon livre, au contraire, est un message d'espoir aux chômeurs, aux gens qui n'ont pas trouvé de métier, aux jeunes qui ont raté le SMIC jeune, et aux crétins en général. Vous êtes crétin, mais sans scrupules, vous pouvez faire une carrière de politicien. Il y a 2-3 règles à suivre. Elles sont dans le bouquin pour 79 francs.
C'est dédié à Malik Ouskine ou...
Je
crois qu'en fait, le président responsable des chasses présidentielles ne pouvait pas lire votre livre, si je vous suis bien.
Trop tard,
voilà.
Mais lui, il n'a jamais fait une carrière de politicien.
Je voudrais dire une chose au président de Lecoq, si vous me permettez,
Serge Beckett. Je vous en prie,
Serge Beckett. On dit les politiques changent leur veste, mais quand même, il y a des moments où, en étant un peu politique, on se pose des questions quand même aussi sur le peuple français, car l'histoire est là pour démontrer, surtout sous la Ve République, qu'on s'aperçoit que lorsque le général de Gaulle propose un référendum sur la régionalisation, les Français votent pour le départ du général de Gaulle. Alors on se dit, après, ils vont voter pour autre chose que le général de Gaulle. Et il vote pour qui, aussitôt après présidentiel? Pour le fils du général de Gaulle, spirituel, putatif, bancaire et autres, qui est le président Pompidou. Donc, il n'y a pas que les hommes politiques qui ont des idées un peu baroques, il y a parfois aussi les électeurs du français qui se comportent d'une façon un peu étrange.
En tout cas, on ne pourra plus dire qu'il n'y a pas d'information dans cette émission, car vous venez d'apprendre que le président Georges Pompidou était le fils du général de Gaulle, chose que j'ignorais totalement. Moi, je croyais que le fils du général de Gaulle était Alphonse. Mais pas Alphonse, Albert, comment il s'appelle?
Non, Sosten.
Sosten. Voilà, en tout cas, pour en finir...
Non, avant d'en finir, pourquoi ne vous voit-on plus à l'émission? Ça intéresse beaucoup les auditeurs, ça. À l'émission de Thierry Ardisson. Expliquez-nous tout. Qu'est-ce qui vous a fait? Avez-vous des griefs? Expliquez-nous.
Chevalier
des griefs.
Ce qui s'est passé...
Je suis content que vous soyez venu, Monsieur Pelletier.
Ce qui s'est passé, si Monsieur Pelletier va bien me laisser placer un mot...
Non.
Bon, alors, deux seulement.
Le retourne.
Ce qui s'est passé, c'est que... Thierry Ardisson avait prévu de faire une émission avec des interventions de personnages du passé et du futur que j'étais censé commenter. Et puis, apparemment, le taux d'audience n'était pas suffisant. Donc, il a supprimé ses interventions, ce qui supprimait du même coup mes commentaires. Ce qui n'est pas grave, puisque l'émission elle-même va disparaître. Enfin, ça m'aura fait faire un tour de piste. Et bon, je reste en très bon terme avec le président Ardisson. D'ailleurs, il m'a dit que c'était pas lui qui avait demandé ma tête, bien sûr, mais que c'était la direction de la chaîne.
Et ça a permis
comme la direction de la chaîne avait demandé ma tête, je ne pouvais pas refuser. Je me retrouve donc dans la même situation que Paul Amar.
Pas tout à fait, mais... Oh. Et ah ça bon. A permis aux téléspectateurs de découvrir votre beau visage.
Ah bah oui. C'est-à-dire, j'ai un physique à faire de la radio, c'est pour ça que je viens aussi chez vous.
Bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'être venu, en dépit des...
Du bon sens.
Non, en dépit du bon sens, etc.
Et je rappelle qu'il n'y a pas de question pratique.
Non, c'est tout.
Alors s'il y a une question pratique, quel est le prix de ce livre, 79 francs. Une autre question pratique, qui est l'éditeur. C'est Hors Collection aux Presses de la Cité.
Voilà.
Troisième question pratique, quel est son titre. C'est Politique, mode d'emploi. Et, bon, disons-le, même si je ne suis pas bien arrivé à le faire comprendre au cours de ce petit entretien, c'est quand même assez drôle, il faut bien dire.
C'est utile.
C'est
mais drôle, il est vraiment utile. Parfois, comme c'est
utile à qui?
Ben, c'est utile à tous les gens qui ont envie de faire une carrière de politicien moderne, monsieur.
Voilà. Évidemment pas le cas.
Non, monsieur. Mais si, monsieur. Et comme tous les détaux qui sont cités dans ce livre sont vrais, et que la réalité est souvent burlesque, eh bien, c'est un livre qui, en même temps, joint l'utile à l'agréable, parce qu'il est absurde tout en étant vrai. Voilà.
On peut espérer obtenir sa part du ghetto.
Bon, lui, il est muté à Limoges.
Il a été renvoyé. Ça fait longtemps qu'il a été renvoyé, mais il ne veut pas comprendre. Je vous remercie, président de Coq. J'espère vous voir. Non, c'est terminé.
Un dernier petit commentaire.
Non, parce qu'il faut qu'on aille écouter de la musique à Bobino.
Si on réussit en politique, seulement quand on est un crétin, alors hélas, monsieur Le Pen n'a aucune chance de réussir.
Non, j'ai pas dit deux choses. D'abord, j'ai pas dit seulement si on est un crétin. J'ai dit qu'il fallait mettre ses idées au service. J'ai dit que c'est ouvert aussi aux crétins, pour peu qu'ils suivent quelques règles simples que malheureusement monsieur le président Le Pen ne suit pas du tout, puisque il ne met pas du tout ses idées au service de sa carrière. Sinon, il se serait centrisé depuis longtemps. Ça fait quand même 10 ans qu'il occupe le terrain politique et il s'obstine, il s'accroche à ses principes. Bon, il n'a aucune chance d'être ministre, je vous le dis.
Bon. De ministre de Balladur, certainement.
Ben voilà. Et même de Jacques Delors.
Va savoir.
Merci. Ben, Pelletier, tu t'arrangeras avec Le Pen. Hein. Merci de cette intervention, président de Coq. J'espère prochainement pour... je crois que vous partez en vacances. Vous reviendrez peut-être nous raconter vos vacances ou quel
que
soit le motif.
Où est-ce que je vais?
Ah non, je pensais... Je pensais que vous alliez partir en vacances, non? J'espérais vaguement que...
Ça vous fera des vacances, je me tire, là.
À bientôt. Marc Dem, est-ce que Marc Dem est au bout du fil?
Il est au bout du fil.
Bonsoir Marc. Alors on vous reçoit un peu tôt ce soir, contrairement à l'habitude, puisqu'on vous reçoit d'habitude à 7h30, mais là je vous ai demandé de nous appeler un peu plus tôt, ce que vous faites fort gentiment, puisque nous attendons Jean-Marie Le Pen pour la deuxième partie de l'émission. Alors, quelle est l'actualité religieuse de cette semaine? La plus importante.
Oui, alors, d'ordinaire, vous me demandez de bonnes nouvelles et n'en ai point. Aujourd'hui, j'en ai quelques-unes.
Eh bien, croyez bien que je m'en réjouis.
Alors, je vais vous les dire. Il y a d'abord cette lettre apostolique du pape Jean-Paul II sur l'ordination des femmes. C'est quelque chose de très net, un texte court que l'on comprend, qui est exprimé d'une façon rationnelle et où il déclare, en vertu de ma mission, dit-il, de confirmer mes frères que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l'Église. Il est évident que ça ne fait pas plaisir à tout le monde et que ça met la panique dans les milieux œcuméniques. Déjà, ça a aggravé la situation en Grande-Bretagne et la Fédération protestante de France s'est réunie à Strasbourg et a condamné fermement une pareille déclaration dans le fond et dans la forme.
Mais ce qui m'étonne énormément, c'est qu'on puisse accorder le moindre intérêt à ce que les protestants pensent d'une déclaration du pape. Je veux dire que, personnellement, je me fous absolument, j'ai beaucoup d'estime pour beaucoup de protestants, mais je me contrefous de ce qu'ils pensent du pape.
Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça ne leur plaît pas et que tous les efforts stupides, à mon avis, qui ont été faits pour rapprocher les états-majors des différentes confessions sont réduits pour l'instant pratiquement à néant.
Oui, alors, oui, bah, cet œcuménisme de mauvais aloi ne me paraît pas mériter un meilleur sort.
Certainement. Certainement.
En tout cas, sur cette question, sur la question de l'ordination des femmes, il est clair que la position de Jean-Paul II est dans le droit fil de la position, y compris de l'Ancien Testament, puisque un des contre-arguments qui sont présentés à ceux qui s'opposent à l'ordination des femmes, c'est l'exemple, je crois, je ne sais plus quelle était cette femme de l'Ancien Testament, est-ce que c'est Bethsabée, non ? Qui oui. était à la fois Bethsabée, qui était général, oui. qui était guerrier, et qui avait les plus hautes fonctions dans le peuple juif.
C'est Judith.
Non, c'est pas Judith. Ça n'est pas Judith, c'est un autre nom qui m'échappe pour l'instant. C'est un nom du genre Bethsabée, mais je ne suis pas certain. Et qui n'était pas prêtre, et c'est indiqué en toutes lettres.
Oui.
Donc, même dans l'Ancien Testament, même donc dans le judaïsme de la tradition de l'Ancien Testament, le rôle du le sacerdoce n'accepte pas les femmes. Donc ça n'est pas quelque chose de nouveau et je suis un petit peu étonné que ça puisse surprendre aujourd'hui surtout les protestants qui sont parmi les meilleurs connaisseurs de l'Ancien Testament.
Oui, et alors beaucoup de théologiens catholiques d'ailleurs sont indignés également puisque ils croyaient que c'était terminé, que Rome accepterait désormais d'ordonner des femmes. Mais alors il y a une personne qui me plaît beaucoup dans le monde politique étranger, en Italie, c'est Irène Pivetti.
La Pivetti. Hein,
voilà, c'est la Pivetti.
Très sympathique personnage.
Oui, alors elle est tout à fait d'accord avec le pape, bon, et c'est une nouvelle intéressante, elle a, tout en étant à 31 ans, et jolie en plus, tout en étant présidente de la Chambre des députés italienne, elle est très catholique et elle, comme on le sait maintenant, elle va à la messe d'ailleurs, à la messe traditionnelle, et elle porte un cœur vendéen sur son corsage. Elle a réouvert la petite église qui se trouve, la petite église qui est annexée à la Chambre des députés, qui ne servait plus, et elle y assiste à la messe les jours de séance. Elle y va de temps en temps en plus pour prier. Et c'est très mal vu de certaines personnes, entre autres d'un député progressiste, qui a rappelé une chose épouvantable. Il a dit ceci, « Je n'oublie pas qu'avant d'être élu, la signora Pivetti a fait des déclarations sur le fait que l'on ne peut pas mettre, toutes la foi, sur le même plan, et que la foi catholique est la plus importante. » C'est une atteinte antipluraliste que manifestement on ne peut pas partager.
Donc si je comprends bien, M. Valdo Spini n'est pas content.
Il n'est pas content.
J'ai un gros problème de micro, Marc, je m'excuse, oui. Mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout au point de vue technique. On entend tout ce qui se passe dans ce studio d'une façon effrayante. Non, c'est ce qui fait qu'on ne peut plus toucher de papier, ça froisse complètement, si c'est le cas de le dire.
L'audition. Vous êtes trop sensible.
On va essayer de supprimer un micro, là, je crois. Enfin, de le baisser, en tout cas. Eh bien, vous avez droit, après ces deux bonnes informations, à une troisième.
Oui, une qui est cocasse et rassurante. Vous savez, la cathédrale d'Évry, on avait mis le toit maçonnique en triangle, la pointe en bas, et le toit, eh bien, il se casse la figure. Donc, il
c'est bien triste, tout
de la flèche, et d'une façon telle que, si on le laisse dans cette position, il finira par larguer ses amarres et par s'écraser dans le centre du temple.
Et comme il a la forme d'un triangle maçonnique, il faut savoir que si vous allez, enfin les gens qui iront donc assister à des cérémonies dans la cathédrale d'Évry, risquent d'être écrabouillés par le triangle maçonnique.
le delta lumineux.
Oui, le delta lumineux. Ce qui va, ce qui pose problème, comme disent les évêques maintenant.
Oui. Eh bien, l'évêque du lieu, Mgr Hervulin, n'a rien compris d'ailleurs. Il n'a pas vu qu'il y avait peut-être un petit signe, un petit clin d'œil de la Providence. Et il a dit simplement, vous savez, quand une famille construit sa maison, il est bien rare qu'il ne faille quelques délais supplémentaires avant de pouvoir pendre la crémaillère. Mais pour l'instant, il n'a pas pendu la crémaillère, il n'a pas pendu le toit non plus. Et la grue géante a été remontée pour enlever le toit et le renvoyer en usine.
Merci mon cher Marc. Alors je rappelle que si on veut avoir... c'est Déborah le nom que je cherchais, effectivement. Oui. J'étais sûr qu'une auditrice...
Maintenant vous le dites.
Et naturellement c'est une auditrice protestante qui téléphone, parce que les protestants connaissent l'Ancien Testament par cœur, y compris les numéros des versets. Et cette auditrice qui dit « Ne tapez pas sur les protestants, j'en suis une », je ne tape pas sur les protestants, je dis simplement que leur opinion sur le pape me paraît pas très intéressante en ce qui concerne les catholiques, voilà. C'est un peu comme si moi je disais mon opinion sur, je sais pas, l'archevêque de Canterbury. Je pense qu'il s'en foutrait totalement. Il faudrait d'abord en avoir une. Et donc cette auditrice me dit, nonobstant le fait qu'elle est protestante, ou plutôt justement parce qu'elle est protestante, le nom de la femme que vous cherchez, c'est Déborah.
Déborah.
Effectivement, Déborah était un grand général, un grand juge, du peuple juif, mais elle n'était pas prêtre. Vous ne saviez pas ça, Marc Dem?
Si, je le savais, bon. Mais ce n'était pas présent à ma mémoire.
J'ai eu peur.
Heureusement que je vous ai téléphoné, maintenant, ça m'a rafraîchi la mémoire.
Merci, Marc. Cécilia est bien arrivée, on va la recevoir tout à l'heure. Je vous le dis pour que vous ne soyez pas inquiets. Et je dis aux auditeurs que s'ils veulent lire la lettre confidentielle d'information religieuse Iota Unum, ils peuvent écrire boîte postale 52-7800 à Saint-Germain-en-Laye, CEDEX, pour recevoir un spécimen. Et j'ajouterai, hors micro, mais tant pis si les auditeurs entendent, que j'ai eu l'autre soir les représentations d'un ami prêtre qui m'a dit c'est dommage qu'il ait changé l'entête de sa lettre.
Ah bon ?
Oui, le graphisme de Iota Unum lui plaît moins le nouveau que l'ancien.
Ah bon ? Voilà,
comme ça, je ne vous cache rien.
Oui. Ben, voilà,
mais le contenu de la lettre le passionne toujours autant. Merci Marc, à bientôt.
À bientôt.
Docteur Dor, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes venu pour nous exposer le point des péripéties que vous vivez dans le combat contre l'avortement. Et je crois que vous allez comparaître devant un tribunal très prochainement.
Oui, nous comparaissons, nous sommes sept, nous comparaissons devant le tribunal de grande instance de Nanterre le mercredi 15 juin prochain à 13h30, chambre 2. Nous avons deux avocats, maître Georges-Paul Wagner et maître de Coate-Gourdin. Il est peut-être intéressant, si vous me permettez, de revenir un instant sur ce qui s'est passé à Tours.
J'allais vous le demander.
Précisément. Pour nous, c'est intéressant parce que c'était presque le même cas, pas tout à fait, parce qu'ils avaient été un petit peu plus loin que nous. Ils étaient enchaînés, nous ne sommes pas enchaînés. Nous étions dans le sens de bloc opératoire, mais sans chaîne. Eh bien, une chose, d'abord, est assez frappante, c'est que le verdict, tout le monde a pu le remarquer, enfin ceux qui s'intéressent à ces nouvelles, tout le monde a pu remarquer que le jugement est plus sévère que le réquisitoire du procureur. C'est-à-dire que le procureur réclamait, si je ne dis pas de bêtises, un ou deux mois de prison avec sursis, plus une amende, pas très élevée je crois, mais c'est la prison qui a été retenue davantage, puisque je crois que Claire Fontana a été condamnée, je crois, à 6 mois avec sursis, et les autres avec 3 mois, enfin. Il faudrait vérifier le... Mais enfin, la sentence était assez lourde.
Il faut dire que le sursis, dans ces circonstances, c'est assimilable à une prise d'otage. C'est-à-dire, ça veut dire, si vous recommencez, vous allez en prison.
Voilà, c'est ça. Mais ils ont ajouté qu'ils se voulaient dissuasifs. Il s'est écrit dans toutes lettres. Ils ont voulu être dissuasifs. Et alors, à ce propos, c'est assez curieux, parce que j'ai passé moi-même le 25 avril, j'ai passé en appel à Paris pour une histoire qui s'est passée à Bobigny avant la loi Neyers. Et maître Georges-Paul Wagner, qui me défendait très bien, avait fait remarquer avec, je trouve, grande justesse et une certaine ironie aussi, que ceux-là même qui voulaient appliquer la loi avec rigueur et même avec dissuasion, eh bien, étaient les mêmes, pratiquement les mêmes, ceux qui se plaisaient à contourner la loi 25 ans auparavant, quand celle-ci, évidemment, interdisait l'avortement. Donc, relativiste de la loi, alors il l'a dit, mais ça n'a pas été relevé, enfin, il n'y a pas eu de contradiction, bien entendu, oui. Par le...
C'est pas tant le relativisme de la loi que la ductilité des magistrats.
Que la ductilité des magistrats.
Et à ce propos, je voudrais inviter nos auditeurs, et je le dis, même ceux qui ne sont pas d'accord avec les positions de la nef, à lire... Parce que chaque fois que je parle de la nef, j'ai des lettres de traditionnalistes qui me disent « Mais comment pouvez-vous faire de la publicité à ce mensuel de ralliés ?» Bon, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire les ralliés, je ne sais pas ce que ça veut dire les intégristes, tout ça, je m'en fous. Il y a des catholiques de tradition, point à la ligne. Et donc, dans le dernier numéro de la nef, il y a un papier magnifique, mais vraiment magnifique, de Jean-Marie Popper, où il parle des juges. Je crois qu'on n'a pas écrit sur les juges comme ça, depuis fort longtemps, et je n'ai en mémoire que du Léon Blois ou du Brignot, pour avoir exprimé avec autant de vigueur l'exacte estime que méritent certains magistrats. Pardon de vous avoir coupé.
Oui.
Donc c'est les mêmes magistrats, au fond,
qui
refusaient d'appliquer la loi contre les avorteuses.
Qui maintenant s'en font les gardiens vigilants.
Qui maintenant sont les gardiens vigilants de la loi contre les anti-avorteurs.
Oui, exactement. À retourner.
Alors, donc, docteur Dor...
Et ceci pour faire remarquer aussi que on avait dit à un moment que... Enfin, certains avaient dit que Simone Veil, on pouvait considérer qu'elle était un peu l'otage de M. Balladur. Hein, mais j'ai plutôt l'impression que c'était...
Un peu l'otage,
c'est ça qu'elle était. Je dirais, elle était bien gardée, puisqu'elle était avec Balladur. Mais je crois que c'est plutôt elle qui porte le pantalon, j'ai l'impression. Enfin, c'est...
Personne ne s'en plaindra.
Madame Veil est également ministre de la Ville. Il y a deux jours, hein, avant-hier, j'ai vu une dépêche à Nancy, dans une de ces banlieues à population très mitigée, je ne dirais pas halogène. Une vingtaine de personnes ont été interpellées par les services de police en détention de drogue dure, comme il est noté dans les dépêches, c'est-à-dire d'héroïne. Eh bien, la punition a été de 4 jours de garde à vue.
C'est incroyable.
Pour ces 20 personnes qui détenaient des sachets d'héroïne.
C'est ignoble.
Ça donne une idée de la juste proportion de la justice que nous évoquions tout à l'heure.
C'est effrayant. Ces pauvres garçons, ces pauvres jeunes ont passé 4 jours en garde à vue parce qu'ils avaient quoi ? Quelques centaines de grammes
d'héroïne chacun.
Incroyable. C'est vraiment ça, c'est une justice, on peut dire presque nazie.
Hein ? J'ai l'impression de
c'est à la limite du nazisme. Ouais. Bon, il aurait fallu leur faire des remontrances. D'ailleurs, moi, j'ai une proposition. Quand je serai au pouvoir, je l'appliquerai. Je pense que ça va venir rapidement.
Dieu nous en garde.
En ce qui concerne, enfin, Dieu en garde les trafiquants de drogue, en tout cas. Je pense que quand on attrape un trafiquant de drogue avec son matériel sur lui, il faut lui dire, cher ami, puisque vous aimez ça, ne vous gênez pas. Et il faut donc lui injecter immédiatement la totalité des doses qu'il transporte sur lui. Ça me paraît, écoutez, on peut dire que c'est une punition qui est relativement bénigne.
Qui pourrait être mortelle aussi.
Ah, sans bitant, je sais bien, mais peut-être que ça les convaincrait de ne pas transporter trop. Dans ce cas-là. Voilà, docteur. Alors,
Oui, pardonnez-moi. Alors, une deuxième conclusion du jugement que j'ai trouvée fort intéressante parce que j'ai été au procès de Tours et il se trouve que les avocats de la partie civile. Parler beaucoup de convictions, de dire après tout, et c'est dans le jugement, que bien sûr les convictions religieuses sont respectables de ceux qui ont fait ça, mais qui n'imposent pas leur point de vue. Et ça, c'est un point de vue que l'on trouve très souvent. Mais alors, le Monseigneur Honoré, que l'on doit vraiment remercier parce qu'il était là, il a eu le courage de venir, est presque un peu rentré dans cette logique parce qu'il a parlé de logique de compromission, donc c'était ceux qui admettaient l'avortement, le laxisme et tout ça, et il a parlé de logique de conviction qui était celle de ceux qui occupaient les centres d'avortement. Mais je pense que c'est une erreur parce que l'avortement n'est pas une affaire de conviction, c'est un meurtre. Et ça me paraît très important. Ce n'est pas une affaire d'opinion, ce n'est pas une affaire de sentiment, ce n'est pas une affaire, je ne sais pas, de sentiment. Enfin, un hold-up n'est pas une affaire de conviction, un viol n'est pas une affaire de conviction. Ce sont des crimes. Eh bien, l'avortement est un meurtre. Et alors, c'est très curieux parce que ceci, c'est pour subjectiviser, je ne sais pas si le mot est français, l'affaire. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas tellement l'avortement, c'est plutôt le point de vue qu'on en a. Et c'est là-dessus que le... Donc, vous avez votre point de vue, très bien. Moi, j'en ai un autre, eh bien... Alors, au fond, là-dedans, le perdant, c'est la réalité. Et la liberté devient folle lorsqu'on l'exalte et qu'on la sépare de la vérité. C'est ce que disait donc Jean-Paul II dans son encyclique Veritatis Splendor. La liberté est inséparable de la vérité.
Je crois qu'il nous reste une minute. Martin Pelletier, tu voulais dire quelque chose?
Oui, Colombani aussi. Chaque fois qu'il y a un crime et une lâcheté à commettre, on parle de conscience, notamment en matière de politique. On dit que c'est une question de conscience et chacun reprend sa liberté. Ça a été le cas de M. Toubon, M. Chirac sur de nombreux votes. En fait, c'est ce que vient de dire le docteur Dor est évident. Ou bien on croit qu'il y a des faits, en fait, des réalités, des commandements, le bien, le mal, ou bien on ne le croit pas. Alors, si on ne le croit pas, ben tout le monde fait n'importe quoi. On peut s'amuser énormément, d'ailleurs, il faut bien le dire. Ou bien on le croit, et à ce moment-là, ce n'est pas une question, justement, de liberté individuelle. C'est un choix fondamental. Et c'est ça, le fond du problème. Ou bien on croit qu'il y a une société qui peut tenir et qu'il y a surtout au-dessus quelque chose qui peut la justifier, c'est ça, ou bien on laisse tout aller.
Je voulais dire très rapidement une chose, Serge, c'est que j'ai été frappé, moi, dans l'affaire de Tours, de l'opposition éthique qui a été prononcée par les médecins en question et les infirmières. Or, le docteur Dor est là à côté de nous, il pourrait quand même nous dire une chose qui ne revient jamais. Alors, lorsque ces gens emploient le mot éthique, qui ne revient jamais dans la conscience médicale et humaine de ces praticiens, c'est le serment d'Hippocrate.
Naturellement.
Alors, docteur, le 15 juin, à quelle heure?
Le 15 juin, à 13h30.
13h30,
tribunal. Salle 2. Venez nombreux, venez à l'avance.
C'est Nanterre, hein?
C'est Nanterre, métro, ou plus exactement, RER, Nanterre, préfecture.
Entendu. Merci.
Est-ce que je peux vous dire une dernière chose? Parce que...
Il nous reste 3 secondes.
3 secondes, pas plus que ça. Comment dire, nous risquons peut-être un jour ou l'autre la prison, ça on ne sait pas très bien. Mais je peux vous dire qu'il y a déjà un garçon parmi nous qui est en prison depuis le 30 mars. Il s'appelle André Delins, il est à Dijon, à la maison d'arrêt de Dijon. En deux mots, il s'agit de ceci, il fait de l'obstruction civile, il ne paye pas ses impôts, il ne paye pas sa vignette. Et alors, pour la raison suivante, c'est qu'il estime que la veille, ne doit pas être admise dans la vie de tous les jours. Et donc, il fait une obstruction. Et alors, les huissiers sont venus chercher ses meubles. Et on est venu, il s'est défendu, mon Dieu, ça c'est peut-être un peu plus malheureux, il a donné un coup de bâton sur l'huissier. Du coup, il est rentré en prison, mais enfin, il s'appelle André Delins. André veut dire protokleitos, c'est-à-dire, enfin, on l'a surnommé ainsi, puisqu'il était le premier appelé, et là, il est le premier appelé français à entrer en prison.
Mais on reparlera de son cas, et on approfondira cette histoire. Merci de nous la signaler. Merci, docteur Dor, et rendez-vous le 15 juin à 13h30 au tribunal de Nanterre.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, du 8 juin 1994, diffusé mercredi 2 décembre 2015 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 3 décembre dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016 Paris.
Monsieur Jean-Marie Le Pen, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, la première question que je pose, c'est toujours la même, c'est traditionnel dans cette émission. Comment allez-vous?
Je me porte bien. Je dirais même de mieux en mieux.
Vous portez mieux que les autres ne vous supportent peut-être.
Ah oui, non, mais ils essayent de se convaincre que je me fatigue. En moi, au contraire, plus je cours et plus je me sens léger, peut-être parce que je m'allège un peu au point de vue poids, alors je suis dans une forme excellente.
En tout cas, j'ai une nouvelle à vous annoncer, je ne sais pas si elle sera bonne ou mauvaise, et d'abord, est-ce que ça sera une nouvelle pour vous, c'est pas sûr, c'est que vous n'êtes plus l'homme le plus dangereux de France.
Ah non?
Ah non. C'est Monsieur De Villiers maintenant. Et c'est Globe qui vient de lui décerner ce titre. Plus dangereux que Le Pen.
Ouh, c'est plus le... dangereux que le
Pen. Plus dangereux.
Moi, je croyais, on m'avait dit Le Pen, c'est le nouvel Hitler, donc plus dangereux que Le Pen, c'est pas possible. C'est le gag de Coluche, vous connaissez. Blanc, c'est ce que c'est, mais plus blanc que blanc. Alors, dangereux, c'est ce que c'est, plus dangereux que dangereux. Alors, le pauvre Villiers, moi, je me demande, je vais me renseigner, si quand il est dans la ville, je vais partir à la campagne, parce que il est effrayant, cet homme-là. Plus dangereux que Le Pen. Donc voilà.
Ah mais dans, excusez-moi de vous couper, Martin Serge, Pelletier. Mais dans Info Matin, il y a une excellente publicité lancée par les Guignols. Vous avez Le Pen Light, du Le Pen, 100% d'idées Le Pen, sans Le Pen, sans le danger du Front National, ne contient que du De Villiers. C'est extraordinaire, il faut la lire. Hein.
Mais c'est le contraire de Globe. Donc il y a bien des tensions. On sent que là, chez eux, il y a un désaccord. Est-ce qu'il est plus dangereux ou moins dangereux? D'ailleurs, est-ce que Canada Dry est plus dangereux que le whisky Perrier?
C'est la question. Comme dirait M. Toubon.
Donc, hélas pour eux, tout va bien. Et on s'en réjouit, bien entendu. Et si vous avez des questions à poser à Jean-Marie Le Pen, vous nous
dites. Alors, c'est un dévouement,
une assez
admirable. Qui ne me surprend pas chez une belle âme comme la vôtre.
Merci, M. le Président. Donc, on a eu effectivement beaucoup d'appels d'auditeurs, mais je pense que ça va continuer.
Pas d'appel au secours.
Non. Presque. Ah bah presque, si, quand même. Parce qu'ils ont trouvé que les journalistes avaient peut-être manqué de l'habituelle gentillesse dont ils font preuve à votre
égard. Ah, mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude, c'est pour ça.
Alors, on peut lire les messages.
J'ai été scandalisé par l'agressivité des journalistes. C'est une honte, un scandale. Je ne dirai pas le nom. Il me semble que si j'étais de gauche, devant tant d'injustices et de mauvaise foi, je serais écœurée et dégoûtée.
Et vous seriez à droite.
Il le... Voilà.
Ça, c'est une réflexion extraordinaire. Je pense que si j'étais de gauche, je serais de droite.
Voilà.
Si j'étais socialiste et honnête, je serais de droite.
Il ne laisse pas parler Le Pen, il le coupe continuellement, il doit crier pour se faire entendre. Mais il est extraordinaire. Oh. Attention, il va être très fatigué. En arrivant à Radio Courtoisie, faites-le se reposer et donnez-lui de l'eau fraîche. J'espère qu'on l'a fait.
C'est fait.
J'admire.
C'est hélas pas le cas parce que on aimerait bien de temps en temps qu'il soit un peu fatigué.
Oui, pour boire autre chose.
Eh ben non.
J'admire avec quel calme il a pu répondre devant tant d'agressivité et de méchanceté. L'agressivité de certaines questions posées ce soir est peut-être le signe que ses adversaires craignent qu'il ne fasse un très bon score aux européennes. C'est ce que nous souhaitons.
Une remarque fort judicieuse.
Et enfin, il y a un ancien marsouin qui parle vert et qui, lui, a trouvé que deux affreux bleu-bites sont en train de se faire pulvériser par Le Pen. Et il conclut, c'est vraiment lui qu'il nous faut.
Ah, merci.
Voilà. Merci au marsouin. Alors, Jean-Marie Le Pen, on a eu des questions, je crois, de fond, mais je vais peut-être poser moi d'abord des questions,
oui,
ou est-ce qu'on donne la parole aux...
Si elles ne sont pas, enfin, s'il y en a que vous n'avez pas posées, je les redonnerai.
Voilà. Première question, on n'a pas le droit de citer les sondages, mais on s'en fout. Vous pensez que la situation est plutôt ascendante? Comment sentez-vous la chose?
On n'a pas le droit de citer les sondages, on n'a pas le droit de citer les sondages des maisons de sondage.
Oui.
Mais on a le droit de se sonder soi-même. Ah, moi, je suis confiant. Je connais le contexte réel de la consultation. C'est-à-dire que, pendant un an et demi, nous n'avons pas été admis sur les médias. Pendant 15 jours, nous avons été plutôt moins admis que les autres. Mais quand même un peu. Alors ça donne l'impression que nous sommes là tout le temps, n'est-ce pas ? Alors, je pense que nous avons réussi à passer, à rappeler d'abord que nous étions vivants, à l'immense majorité des Français, et puis que nous n'avions pas dételé, que nous n'avions pas changé d'idée, que les événements nous avaient donné raison, et que cela donnait d'autant plus de poids à l'avertissement que nous donnions encore, en inscrivant cette très importante bataille électorale dans le cycle de celles qui doivent, dans les quelques années qui viennent, nous permettre d'occuper la place que nous méritons pour l'intérêt de la France et des Français, parce que si nous continuons dans cette voie-là, tant sur le plan économique, politique que social, eh bien la France va disparaître dans le magma européen.
Alors, je donne la parole tout de suite à Philippe Colombani qui voudrait vous poser une question, mais je voudrais faire une remarque au passage, c'est que curieusement, puisqu'on parlait des sondages à l'instant, les résultats du Front National n'ont pratiquement pas bougé dans toutes les analyses de tous les résultats de tous les instituts, et ils sont, on sent très bien que c'est un chiffre qui a été pratiquement fabriqué avec un tampon encreur, c'est 10%. Alors il y a 10% au début, à la fin, et pendant ce temps-là, les autres listes...
11%.
Je ne l'ai pas vu, ils ont fait, dernier, ils ont fait fabriquer un nouveau...
C'était 11.
Ah bon, donc dernier, ils ont fait fabriquer un nouveau tampon encreur, il faut croire. Et alors pendant ce temps-là, on voit les autres listes qui passent de 42 à 33, de 20 à 14, de 5 à 6, de 12 à pas du tout pour l'Europe commence à Sarajevo et s'arrête à Saint-Germain-des-Prés, de 7 à 9, puis à 6, puis 4, puis 12, puis 10, puis 5 pour tapis. C'est à peu près comme c'est compte en banque, probablement. Tandis que le Front National, c'est 10%, sauf alors, c'est là, j'ai jeu, même pas vu.
C'est le jeu de tapis-vol.
on pourrait, alors, Serge, commenter les sondages très longuement sur la méthode qui est employée, sur l'aspect pseudo-scientifique de cette méthode. Brièvement, les quatre derniers sondages sont faits sur un panel qui va de 870 personnes à 1100 personnes, le taux de gens qui ne se prononcent pas, c'est-à-dire qui n'osent pas donner leur avis ou qui ne participent pas au vote, évolue de 7 à 17% selon les sondages. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il est impossible, de toute façon, et l'histoire l'a montré, d'obtenir par les sondages une vision exacte de la politique. Et ils se sont toujours trompés, en général, pour les élections, les résultats des élections. J'ai jamais trouvé un résultat du Front National dans les sondages avant le jour du scrutin.
Et puis il y a des gens pleins de bonne volonté. J'ai rencontré un électeur du Front National qui m'a dit, vous savez, la première fois j'ai été interviewé, j'ai été sondé. Ah, j'ai dit oui. Il dit, je les ai drôlement eus. Je leur ai dit que je n'avais pas encore décidé de mon vote. Alors, dans ces conditions-là, je crois qu'il ne faut pas s'étonner.
Moi, je voudrais pas entrer dans un registre de persécution, mais il y a une chose qui m'a frappé quand même, Jean-Marie Le Pen, c'est que vous êtes président d'un groupe au Parlement européen. Et ce qui m'a choqué, c'est que dans le cadre de la campagne officielle, vous n'avez bénéficié que de 48 secondes d'antenne sur la télévision ou les télévisions d'État. Et ça, au regard d'une loi, alors qu'elle serait extra-européenne ou infra-européenne, qui voudrait que seuls les groupes présents à l'Assemblée, selon le mode de scrutin majoritaire à deux tours, car si on était dans un cadre de mode de scrutin à un tour, il est évident que le Front National aurait un groupe à l'Assemblée, eh bien, selon ce principe-là, vous êtes exclu de ce qu'on appelle les grands partis, c'est-à-dire, grosso modo, la bande des quatre, qui, elle, a droit quand même à plus de temps d'antenne que vous.
Oui, c'est la loi qui dispose de ça. Et on n'a pas réussi à la changer depuis 1977, je crois. Et cette loi dispose que le temps, les 2h30 réservées à la propagande officielle des listes aux élections européennes, mais c'était au moment où elle a été votée, au moment où les députés européens étaient désignés par les partis. Et dans ce domaine-là, elle s'explique. Elle n'a plus maintenant, évidemment, aucun sens, puisque elle fait dépendre du nombre de députés au Parlement français le temps d'antenne pour les élections au Parlement européen. Alors, le Parti communiste, l'UPF et le Parti socialiste se partagent 2 heures, et le Front National se partage avec les 17 autres listes, 30 minutes, d'où à la fois... C'est cette émission de 48 secondes qui, pour la dernière, est passée à 1h30 du matin, n'est-ce pas, pour les, je pense que c'est pour les routiers qui ont une télévision à bord, dans leur camion, oui, n'est-ce pas. Et puis, on y ajoutera, c'est charmant, c'est la cerise sur le gâteau, 5 secondes le dernier jour.
N'en abusez pas.
Non, je n'en ai pas abusé, mais j'ai mis là... tout ce que j'avais dans mon âme pour faire passer le message.
Un long cri.
Un long cri. Oui, c'est l'histoire du vieil arabe que la télévision interview à Alger, télévision française, et il dit, monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Mais nous n'avons, je voudrais parler, mais nous n'avons que quelques secondes, soyez très bref, quelques mots. Et il dit, au secours. Mais c'est ça.
Alors...
On n'a pas entendu, tu n'avais pas de micro. Bien, alors revenons-en maintenant à cette émission. Comment elle s'est passée? Parce que nous, on ne l'a pas vue. Parce que nos auditeurs ont l'impression...
Elle s'est passée sous les yeux d'un haut personnage de la radio-télévision chinoise qui n'a pas dû être, je pense, choqué d'entendre ce qui m'était posé comme question. Parce qu'on ne m'a pas tellement interrogé sur la situation actuelle, encore qu'on m'a beaucoup parlé de la Bosnie, juste au moment où il semble qu'il y ait eu un cessez-le-feu, n'est-ce pas? C'est bien dommage, parce que j'avais un certain nombre de choses à dire sur d'autres problèmes que cela, en particulier sur les problèmes de la France et les problèmes de l'Europe. Mais enfin, on m'a aussi beaucoup parlé d'un discours fait par M. Maigret en 1986, en extrayant des phrases pour essayer de me faire... de me mettre en contradiction avec la politique actuelle du Front National. Bon, je pense que ce genre de procédé, de la même manière que ceux de M. Amar, n'est-ce pas, sont de nature à plutôt rapporter des voix de la part des braves gens, des honnêtes gens qui regardent ou qui écoutent. Ils se rendent bien compte que les procédés ne sont peut-être pas ceux de l'information démocratique, disons. Mais enfin, moi, j'ai tellement l'habitude que je voudrais rassurer les âmes tendres qui pensent à moi dans ces périodes-là, leur dire que je n'en souffre pas. Je tire au contraire de cela une ardeur nouvelle.
Alors, puisque vous parliez d'Amar... qui a été largué d'ailleurs, mais on a envie d'en savoir un peu plus sur la façon dont ça s'est passé, parce que Amar, visiblement, quand vous êtes là, est un bloc de haine, c'est même ahurissant à ce point-là. Est-ce que vous le sentez?
Les yeux bleus qui me rappellent les gens qui faisaient la loi dans les années les plus noires.
Oui. Mais c'est lui aussi, ils ont peut-être le même fournisseur de lentilles de contact.
Le problème était
un plat de lentilles.
Non seulement de faire un gag, n'est-ce pas, énorme, colossal gag, en amenant des grandes boxes, ce qui était d'un goût absolument délicieux, n'est-ce pas? Et parce que il faut bien dire la vérité, l'échange dans lequel, il faut peut-être remettre ça en son pour nos amis auditeurs, c'était une allusion à un débat piégé de TF1 où au dernier moment, un débat prévu sur l'immigration, qui devait opposer les chefs de partis politiques, leur permettre de s'exprimer sur ce sujet. Et au dernier moment, d'un accord convenu, n'est-ce pas? Et ils se sont fait remplacer par Tapie. Tapie était déjà le héros, avec AUT, avant d'être le héros OS, n'est-ce pas, de la classe politicienne française. Ils se sont fait remplacer par Tapie, lequel a déclaré si j'avais été à la place de Stolerus, je t'aurais foutu mon poing dans la gueule.
Bon. Ce qui est un bon argument politique.
Ce qui est un argument tout à fait remarquable. Et je lui ai dit, tu aurais eu l'occasion comme ça de t'apercevoir ce que c'est qu'un poids lourd, n'est-ce pas? Alors, il paraît que j'ai utilisé, c'est ce que je lis dans la presse de gauche en particulier, et même le Figaro, c'est peut-être pas antinomique, n'est-ce pas, je lis que j'ai employé un vocabulaire d'injure, je lui aurais dit histrion, tartarin et hableur.
Et même matamor.
Et même matamor, qui sont des mots particulièrement injurieux, n'est-ce pas, mais qui reflétaient bien quand même ce que je pensais. Et ça s'est borné à cela. Alors tout le reste, bien sûr, des pièges, ne dépendait pas de Tapie, c'est un petit peu comme les pertes du Crédit Lyonnais. Faut tout de même pas tout attribuer à Tapie, faut en attribuer quand même un peu à Aberer, parce que s'il est vrai que Tapie doit 1 milliard de francs lourds au Crédit Lyonnais, c'est parce qu'on lui a prêté, n'est-ce pas? Et que ça ne représente que 1% de ce que M. Aberer a donné à des tas d'autres gens sur lesquels il serait extrêmement utile de faire une clarté, et non l'obscure clarté qui tombe de la commission parlementaire présidée par M. Séguin.
Et dont M. Carignan s'est déclaré enchanté. Voilà. Sarkozy s'est déclaré enchanté qu'elle soit à huis clos. Voilà.
car ces gens-là font des commissions d'enquête pour mettre au jour, mettre au grand jour les malversations des grands commis de l'État et des politiciens, mais ça se passe à huis clos.
Bien sûr, c'est pour savoir s'ils sont dans le coup, c'est tout. C'est pour voir s'ils sont dans les dossiers, s'ils y sont pas, ils referment, et puis on s'arrête. Non, pour revenir à cette émission, donc, il met des grandes boxes sur la table, il dit, voilà, j'ai pensé, peut-être, etc. Mais alors, il dit surtout, c'est comment notre une marque connue, n'est-ce pas, et c'était pas Adidas, hein. Il dit, c'est à moi, je l'ai demandé à cette marque, et puis alors, cette marque me l'a donnée, et puis il va falloir que je les rende à cette marque. Alors j'ai fait calculer, je ne sais pas par qui, quel était le coût. C'est National Hebdo.
National Hebdo a donné le coût, c'est 220 000 francs quand même, cash.
200, pas plus ?
220 000, non, au petit prix c'est 220 000.
Non, oui, avec 8 500 000 auditeurs.
Au petit prix, oui.
Sans compter le passage du 20h qui est un des non. plus.
Bien entendu, on a pris
l'hypothèse haute où Antenne 2 ce soir-là a pulvérisé toutes les autres.
40%, de c'est très bien. 44% de part de marché.
Je vais vous dire, si.
On peut se payer cette pub.
Ce qu'on appelle, excusez-moi, chers auditeurs, en prime time, c'est-à-dire au journal de 20h, avec 8 500 000 téléspectateurs, une minute de télévision coûte 22 millions de centimes, c'est ça que vous dites ?
Non, c'est pas une minute, c'est 30 secondes. C'est 30 secondes et on l'a pris au... Non, mais on a voulu exprès, pour ne pas être...
Je prends la pub pour le Front National.
Absolument. On a pris le plus petit prix pour ne pas être attaqué. Ça va au moins 220 000 francs.
Je crains qu'on...
Minimum.
Vous n'êtes pas du tout dans les prix.
On est à moitié prix,
mon ami. On n'accepte pas de vous vendre.
Vous n'êtes pas du tout dans les prix, mais c'est pas grave, ça. Bon, bref, c'était une violation. Même le CSA l'a relevé. Alors, et c'est dire, bon. Et bon, ben, on ne va pas faire. Est-ce qu'il s'est pas consacré notre temps?
Non, mais c'est amusant de savoir. Est-ce qu'à votre avis, il s'en est rendu compte tout de suite, ou est-ce qu'il y a eu. C'est simplement après qu'on lui a dit tu as commis une erreur.
Ah non, je dois, à la vérité, de dire que tous les gens de radio, de télévision que j'ai rencontrés dans les 24 heures qui ont suivi, et avant même qu'il y ait eu une sanction, tout le monde condamnait cette attitude. Il faut être honnête, il faut le reconnaître. Donc tous les gens disaient, non, c'est pas possible, il a exagéré, etc. Bon, bref, allez, passons. Oui. Nous avons tellement l'habitude de ces grossièretés qu'on ne s'en aperçoit même plus.
Ce que je voulais, enfin, je souhaitais qu'on y revienne quelques minutes, parce que c'est vrai que ça intéresse beaucoup le citoyen moyen, qui n'est jamais en réalité bien informé. Il a comme ça des flashs, il a des images, mais il n'est jamais très bien informé de la façon dont ça se passe réellement.
Là je crois qu'il suffisait de regarder, de la même manière, la réalisation. Par exemple, M. Tapie était souvent seul sur l'écran,
oui.
Ce qui ne m'arrivait jamais à moi.
Ça, c'est beaucoup plus grave, à mon avis.
Ça, c'était très, très net, par exemple. On voyait bien, parce qu'il faut que les téléspectateurs sachent que l'on peut transformer totalement la tête de quelqu'un selon le nombre de projecteurs, selon la manière dont les prises de vue sont faites, selon le... Si on connaît, très souvent, les photographes prennent par en dessous, par exemple, de manière systématique, selon le maquillage, selon beaucoup de choses. On peut tout à fait changer la tête de quelqu'un. Mais là, c'était très net à la réalisation. On voyait, quand je parlais, on voyait toujours Monsieur Tapie, n'est-ce pas ? Tandis que quand Monsieur Tapie parlait, moi, généralement, on ne me voyait pas.
Ce genre de petites astuces est beaucoup plus grave que la pitrerie de Paul Amar. Et moi, personnellement, vu de l'extérieur, je trouve un peu excessif qu'on châtie aussi durement Paul Amar pour ça, alors que dans l'histoire de la télévision publique et privée, on a vu des choses, d'ailleurs de sa part, à lui-même, bien plus graves que ça. Je pense à notamment le traitement de Carpentras ou d'autres traitements qui sont au point de vue des informations, et beaucoup plus grave cette histoire de grande boxe. Et notamment, simplement le fait de mettre Tapie Le Pen en vis-à-vis, au lieu de mettre la caméra sur Le Pen, est 100 fois plus grave que cette histoire, mis à part l'histoire de publicité en Justine, qui était de toute façon châtiée, mais pour le reste, c'est ridicule plus qu'autre chose.
N'importe comment, il faut tout de même, pour les gens qui aiment les animaux, leur dire que les mouches n'ont strictement rien risqué avec les gunbox de M. Paul Amar.
Au demeurant, c'est un parfait condensé, cette aventure, de l'idée que danser. Les Français... doivent se faire quand même du service public d'État d'information et de la manipulation et de l'organisation de la manipulation qui se fait dans une démocratie française. Ça, c'est quand même évident. Ça saute aux yeux tellement c'est gros.
Mais,
alors,
notre ami
Jean-Marie Le Pen, je suis obligé de vous demander de parler
dans notre ami a versé sa larme sur le triste sort de Paul Amar.
Privé d'écran pendant 3 semaines.
C'est quand cette solidarité confraternelle l'honore.
Le 27 juin, Martin Pelletier rentrera à National Hebdo.
On va peut-être prendre un peu d'altitude. Moi, une chose qui me surprend beaucoup, c'est que tous les intervenants, toutes les têtes de liste, tous les gens qui ont parlé, commencent par se plaindre qu'on ne parle pas assez de l'Europe dans le débat. Moyennant quoi, tous ayant dit ça, parlent de tout à fait autre chose. Mais au fond, est-ce que ça ne veut pas dire que très profondément, les Français ont compris que l'Europe, dans son fonctionnement, ne dépendait pas de ce qui va se passer le juin.
C'est évident. Mais il faut d'abord noter une chose, c'est que les deux têtes de liste de la majorité et de l'opposition ont esquivé le débat sur l'Europe. Et ont esquivé d'ailleurs le débat avec tous les autres contestataires possibles, c'est-à-dire avec ceux qui, comme moi par exemple, auraient pu leur poser des questions gênantes. Ils ont joué sur l'inertie de leur masse électorale, en appelant beaucoup plus les gens de la majorité à voter pour eux, plutôt que les gens convaincus que la politique européenne était bonne, ou qu'ils soient contre ou pour Maastricht, n'est-ce pas ? Le débat entre M. Rocard et M. Baudis a été affligeant, puisqu'il s'est conclu sur le niveau des prestations sociales du personnel de la mairie de Toulouse comparé à celui de la mairie de Conflans-Sainte-Honorine. Bon. D'autre part, je crois que on a essayé d'éviter de faire savoir aux Français que cette élection pouvait remettre en cause le vote de Maastricht, n'est-ce pas ? Et que si une manifestation claire se faisait en faveur des adversaires, et en particulier de la principale liste anti-Maastricht, c'est-à-dire celle du Front National, celle qui a donné, qui ne donne pas des promesses, mais des garanties par ce qu'elle a fait avant, dans les années précédentes, contre Maastricht, au Parlement européen. Nous avons des répondants, c'est notre action au Parlement européen, où, grâce au grand talent et au grand courage, au grand dévouement de nos 10 députés français du groupe des droites, nous sommes intervenus plus de 4000 fois en 5 ans, soit en séance publique, soit dans les commissions. Nous avons combattu l'Europe à vocation fédéraliste et à vocation mondialiste, alors qu'on a pu assister au spectacle du chef de la liste gouvernementale, M. Baudis, annonçant que l'on allait rétablir 40 contingentements, n'est-ce pas ? C'est-à-dire une politique qui est exactement à l'inverse de celle de Maastricht. Alors, ou bien on fait, mais ça je sais que c'est le langage électoral, que pendant les élections, on dit n'importe quoi, et puis le lendemain, ça n'empêchera pas M. de Villiers de voter pour le gouvernement de M. Balladur pour appliquer la politique de Maastricht et de continuer à côtoyer dans le parti dont il est membre les traîtres qu'il dénonçait pendant la campagne électorale. Parce qu'il y a toujours un petit peu, on peut dorer un peu la pilule à l'électeur, mais on n'a pas le droit de lui mentir effrontément comme on le fait. Malheureusement, il est naïf, il est prisonnier de certains comportements, de certains automatismes électoraux, et c'est cela, c'est cette campagne de vérité que nous nous sommes efforcés de faire par tous les moyens à notre disposition. Ils étaient, je ne vous le cache pas, plus modestes qu'ils n'ont jamais été auparavant.
Martin Pelletier.
Jean-Marie Le Pen, vous venez de montrer que la campagne, le vote qui est demandé aux Français par les listes de la majorité, n'est ni un vote de réflexion, ni un vote de bilan, ni un vote de conviction, mais un simple vote d'habitude et de notoriété, en quelque sorte. Mais alors vous, à quatre jours, là, maintenant, je vous demande, quel point sur lequel vous aimeriez faire finir la campagne ? Le point nodal, le point
essentiel.
Eh bien, écoutez, si vraiment vous voulez savoir, je vais vous donner un bon conseil. Martin Pelletier, vous venez demain soir dans un lieu peu connu, d'ailleurs, mais qui est très, paraît-il, très confortable. C'est boulevard... j'avoue que je ne sais pas très bien. C'est au grand meeting du Front National de la région parisienne, notre dernier meeting, où je vais parler de la question qui vous importe, parce qu'elle dépasse chacun d'entre nous et tout le reste, c'est de savoir si la France va continuer à exister ou si elle va cesser d'exister pour disparaître dans le magma européen comme une simple région, comme une définition administrative, et même qui n'est pas sûr de subsister, parce que on nous dit que dans l'aménagement du territoire, il va falloir sacrifier un échelon administratif. On sait maintenant que dans l'esprit du gouvernement, cet échelon, c'est l'échelon national. Alors la France, c'est bien autre chose qu'une structure économique, sociale ou autre. C'est un ensemble vivant, et est-ce que les Françaises et les Français vont admettre par leur vote, n'est-ce pas, sans avoir l'excuse d'avoir été aveuglés comme lors de la campagne de Maastricht, n'est-ce pas, s'ils vont accepter de basculer comme cela dans une Europe dont ils ne connaissent ni les contours, ni la Constitution, mais on les en a avertis de façon irréversible, ou bien s'ils vont donner aux gens du Front National l'occasion de se manifester, non seulement pour l'intérêt de la France, mais pour la survie des autres patries européennes qui sont nécessaires au monde dont elles ont constitué, il faut bien le dire, la trame de l'histoire, n'est-ce pas, pendant des siècles. C'est très grave ce qui est en train de se passer, parce qu'on est en train d'attirer les Français avec un appôt, économique et social qui est vide de substance, parce que l'Europe a fait la démonstration qu'elle apportait, c'est un fait concret, qu'elle apportait le chômage, qu'elle apportait la fin de toute une série d'industries, elle va apporter en plus l'éloignement des pouvoirs, la perte de contrôle démocratique qui était si modeste chez nous, c'est la fin de cela. C'est la fin d'une histoire, c'est la fin de l'armée française. Enfin, il faut le comprendre, puisque le jour de la fête nationale, on va faire défiler un élément, une unité européenne.
Finalement, vous êtes d'accord avec Georges Benamou dans Globe, il y a d'un côté le Front National et de l'autre côté le Front des Internationaux.
Je crois qu'il y a le fond, et je crois que somme toute, malgré le caractère apparemment excessif de cette affirmation, je crois que le symbole du système, c'est bien Monsieur Tapie. C'est Tapie qui est à la fois le symbole de la gauche et le symbole du système tout entier. C'est pour cela d'ailleurs que le président de la République l'a choisi et l'a poussé comme il le pousse, mais il n'est pas le seul. On sait que M. Pasqua a été un de ses protecteurs dans l'affaire Tranchant. On sait que M. Séguin a été troisième personnage de l'État, son protecteur dans l'affaire de la deuxième demande de levée d'immunité parlementaire. Je ne sais pas si M. Tapie pourra passer le pont aux ânes judiciaire, mais je sais déjà que sur le plan politique, il est éminemment représentatif de tout ce que nous combattons. J'ai dit qu'il était la non-France, nous sommes la France, et il y a peut-être cependant l'anti-France qui est représentée par l'établissement politique.
Je voulais faire une observation quand même. Moi, je suis frappé d'une chose, parce que nous sommes un pays de commémoration, et c'est parce que nous sommes un vieux pays d'histoire. Alors, dans cette année 94, qui est à la fois littéraire et politique, on célèbre Céline discrètement, Voltaire un petit peu plus, on célèbre le débarquement de Normandie, mais on ne célèbre pas une chose, qui est la mort de l'Europe il y a 80 ans à Sarajevo. Ce qui est quand même frappant. Or, on a l'impression que la boucle est en train de se boucler aujourd'hui, car c'est effectivement à Sarajevo que s'est déclenché le premier conflit mondial, le grand holocauste européen.
Absolument. Et le grand holocauste national, ont perdu 1 450 000 hommes, sans parler des blessés, des gazés qui sont morts dans les quelques années qui ont suivi. C'est donc près de 2 millions de Français qui ont disparu pour la défense de ce qu'on appelait à ce moment-là une frontière. Ils ont d'ailleurs recommencé pour un certain nombre d'entre eux dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais il faut que nous apprenions que toutes les générations et tous les Français, même de génie, fussent-ils de génie, qui nous ont précédés, étaient tous des imbéciles. Puisqu'ils
et des salauds.
Et des salauds, car ils maintenaient la fiction de la nécessité des territoires et des frontières, alors que grâce à M. Delors, à M. Chirac, M. Giscard d'Estaing, et on a découvert que toutes ces notions étaient totalement périmées, qu'elles étaient contraires aux intérêts bien compris et aux droits de l'homme, et que tout est changé, maintenant le cœur est dans les chaussures.
Alors, la question que je voulais poser, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'histoire repasse par les mêmes plats ?
Souvent. Souvent, il y a des... Vous savez, il y a des pentes historiques qui amènent, d'ailleurs, c'est, la géographie, par exemple, amène les batailles, par exemple. À Auray, il y a eu plusieurs batailles à des siècles de distance. C'est parce que, la pesanteur de la géographie amène les belligérants à se retrouver à un endroit donné. C'est parce qu'il n'y avait pas de frontières naturelles que la plupart des plus sanglantes batailles françaises se sont déroulées dans le nord ou dans l'est. C'est parce que là, il y avait la possibilité de percer et il fallait des frontières artificielles pour nous protéger.
Il n'y a plus d'Ardennes comme disait Guderian. Mais cela dit, Jean-Marie Le Pen, vous nous parlez d'histoire, mais vous avez tout à l'heure parlé d'économie. Il y a quelque chose qui m'a un peu choqué, c'est que vous parliez du bilan de l'Europe de la CE, et on nous dit quand même que depuis 30 ou 40 années, on a parlé des 30 glorieuses, on nous dit que la suppression des frontières, le libre-échangisme et la communauté européenne ont permis au contraire une grande prospérité de nos nations, une grande politique agricole commune, un développement de nos échanges. Alors, c'est un peu paradoxal de dire que, nous sommes moins prospères qu'il y a 40 ans.
Ce n'est pas exact. La croissance a permis ce développement économique, mais elle s'est payée d'un prix extrêmement lourd qui est le nombre des chômeurs. Et M. Millaus vient de publier un livre qui contient les deux termes de l'alternative, les frontières ou le chômage, dans lequel il apporte une démonstration éblouissante au thème développé depuis longtemps par le Front National, à savoir que l'une des principales causes du chômage dans notre pays avec l'immigration et le taux élevé de nos prélèvements obligatoires, fiscaux et sociaux, c'est justement l'abaissement progressif et la suppression des frontières. Si l'on accepte les 20 premières années pendant lesquelles nous avions à peu près des droits de douane de 20% et où l'activité a été remarquable, eh bien on s'aperçoit que le nombre des chômeurs augmente au fur et à mesure que se succèdent les rounds, n'est-ce pas, comme dirait M. Clinton, le Tokyo Round, le Kennedy Round, l'Uruguay Round, qui tous visaient à abaisser, voire et puis à supprimer maintenant avec Maastricht les barrières douanières et tarifaires, eh bien on s'aperçoit que sans aucune protection, d'abord contre l'Europe, parce que l'OCDE vient de nous donner raison en constatant que c'est d'abord la concurrence européenne qui a ruiné par pans entiers dans l'agriculture et dans l'industrie l'économie française et qui a abouti à un chiffre que M. Alain Maurice, prix Nobel de l'économie, évalue à un chiffre supérieur à 6 millions de chômeurs. Alors, le coût de tout cela est exorbitant, et il est certain que l'immigration a joué et continue de jouer un rôle, et que ce n'est pas l'Europe de Maastricht qui va résoudre ce problème, il ne va faire que l'aggraver. Nous avions dit au moment de Maastricht, il y a 2 ans, Maastricht, ce sera plus d'immigration, plus d'insécurité, plus de chômage, plus d'impôts, et c'est nous qui avions eu raison au moment où nos adversaires décrivaient l'Eldorado, n'est-ce pas, l'Eldorado, dans lequel nous allions entrer si nous votions en faveur de Maastricht. Je dirais, si vous le permettez, plus tard, une explication que je crois très démonstrative.
Avant, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous ne paraît pas quand même un peu surprenant que cette hostilité à l'Europe de l'administration, parce que c'est ça, c'est une Europe de rond de cuir, en fait, qui fonctionne en auto-alimentation.
C'est plus grave que cela. Il y a derrière le projet maastrichtien, il y a une idéologie mondialiste dans laquelle l'Europe fédérale n'est qu'une étape. Peut-être d'ailleurs que l'on sautera à un moment donné, mais le but, c'est le gouvernement mondial, et on comprend bien que le président Clinton, qui évidemment est un nationaliste américain, lui ça c'est autorisé, comme d'ailleurs est autorisé le nationalisme palestinien ou le nationalisme israélien ou bosniaque, ce qui n'est pas admis,
c'est le nationalisme français,
c'est le nationalisme français, voire même le nationalisme italien, espagnol ou allemand, parce que cela s'oppose à la mainmise générale sur le gouvernement du monde. Voilà, la réalité, c'est cela. J'ai mis un certain nombre d'années, comme beaucoup d'autres, à le comprendre parfaitement, mais avoir passé 10 ans au Parlement européen, ça m'a aidé à comprendre cela.
Bon, mais alors justement, on a l'impression qu'en France, c'est un sentiment qui est, enfin c'est une conviction, ou c'est en tout cas une impression qui est fortement ancrée, au minimum chez un Français sur 10, au strict minimum, mais on a l'impression que c'est moins fort en Europe, que c'est moins fort dans les autres pays d'Europe, je veux dire en Italie, en Allemagne. On n'a pas l'impression, en Italie par exemple, où il y a évidemment une espèce d'émergence, et pas d'aujourd'hui, du mouvement national, on n'a pas l'impression que Fini focalise son discours sur le danger du mondialisme à travers l'Europe. En Allemagne, on n'a pas l'impression non plus que ce soit tellement un thème porteur. En Angleterre, bon, l'Angleterre fait partie de l'Europe parce que c'est la mode, mais on a l'impression que la droite nationale ou la droite du Parti conservateur n'est pas tellement préoccupée par ça. Donc c'est curieux. Est-ce qu'il y aurait qu'en France qu'on a compris que...
Non, n'est-ce pas, l'Allemagne n'y est pas hostile parce qu'elle y voit la possibilité de sortir de son isolement. C'est pas des isolements... diplomatique et je dirais moral et accablant, c'est pas depuis 50 ans, et abusif, il faut bien le dire. Bon. Mais elle sait, en toute hypothèse, qu'elle sera le grand intendant pendant un certain temps de l'Europe. C'est elle qui dirigera l'Europe pour le compte de qui il appartiendra, comme on dit dans les textes, c'est-à-dire des États-Unis ou de ce qui parlera à travers les États-Unis. L'Angleterre n'est pas concernée, puisqu'elle quittera la structure au moment où elle le jugera utile et sans demander l'avis de personne. Quant aux petites nations, bon, elles sont subventionnées pour y être, donc il n'y a pas de problème. Et la France, elle y est, elle, pour des raisons qui tiennent bien plus à l'accord général de ses loges maçonniques qu'à toute autre raison. C'est la nouvelle idée, universaliste. Il faut de l'universel aux notaires, aux avocats et aux fonctionnaires pour s'élever l'esprit, n'est-ce pas ? Alors, il y a un grand projet. Il y avait eu la Révolution française. Alors, maintenant, il faut passer au stade du monde. Liberté, égalité pour tout le monde. Cette fois-ci, nous allons faire l'égalité du monde, l'égalité des races, l'égalité des sangs, l'égalité des comptes en banque, l'égalité des prix de revient. C'est le grand projet pour le 21e siècle. Voilà, la vérité.
Je crois, Serge, que je vais continuer votre question. Si je la comprends bien, la France ayant été la première à subir le virus ou le microbe dont vient de parler Jean-Marie Le Pen, je crois aussi que le nationalisme français est le premier à... peut-être ne pas sentir, mais du moins conceptualiser le danger mondialiste, parce qu'effectivement, on le voit beaucoup moins du moins dans ce qu'on en connaît, hein, dans les documents qui viennent d'Allemagne, d'Italie, du MSI ou d'ailleurs. Je crois que d'ailleurs, c'est peut-être là-dessus que vous avez quelque chose à dire. Je crois que le Front National a fait le premier, l'analyse en tant que grand parti de cette question-là.
Oui, mais je vais plus loin aujourd'hui, parce que je crois que personne ne s'est posé la question. Tout le monde a dit, oui, l'Europe, oui, bon, l'Europe, pourquoi pas, on va faire l'Europe, c'est bien, l'Europe... c'est utile. Personne ne s'est posé la question de se dire justement, on fait l'Europe pourquoi ? Est-ce que c'est pour faire quelque chose de grand et pour faire comme les autres, comme les Russes et comme les Américains ? Ou bien est-ce que c'est nécessaire, indispensable ? Parce que évidemment, toute adhésion à une collectivité supérieure implique des sacrifices qui peuvent être dirimants. Est-ce qu'on a le droit de le faire ? Eh bien, ces questions auxquelles personne n'avait répondu, je crois qu'il faut y répondre. Il n'est pas du tout démontré, d'abord, que la multiplication des échanges internationaux provoque la prospérité que l'on dit. En tous les cas, pour tout le monde. Parce que ce qu'il faut dire, ce qu'on cache, c'est qu'à la vérité, nous sommes en état de guerre économique. Nous sommes en guerre économique. Et cette guerre-là fait des morts que l'on ne voit pas, qui ne sont pas aussi sanglants que ce que l'on voit dans les guerres classiques, mais qui n'en existent pas moins. Il y a des économies dans le monde qui seront ruinées par cela. Il y a des peuples qui disparaîtront. Et je ne voudrais pas que nous soyons au rang de ces peuples-là. Et je voudrais remettre en cause, d'une façon, je crois que c'est très rafraîchissant, un certain nombre de dogmes qui nous sont assénés avec sérénité par l'environnement politicien, par le système, et que nous avons, somme toute, accepté. Alors moi, je pose l'Europe pour quoi faire ? Est-ce que, comme je le dis quelquefois, comme disent nos amis du Sentier, est-ce que c'est bon pour nous autres, ça, l'Europe ? Eh bien, j'en suis pas sûr du tout. Voilà. Oui, j'en suis pas sûr du tout, je suis même sûr, maintenant, du contraire. Car je crois que les entités utiles à l'homme, ce sont celles qui gardent la dimension utile. J'ai entendu M. Pinault-Valenciennes, pas lui, non, M. Bébéard déclarer au sujet de M. Pinault-Valenciennes, cet après-midi, dire « M. Pinault-Valenciennes dirige un groupe tellement important qu'il ne peut pas tout contrôler et il s'est arrêté à temps, il a dit « il est responsable certes, mais… » Oh là là, il s'est arrêté juste avant de dire « mais pas coupable, coupable. ». Ouais. Nous avions déjà entendu ce renseignement dans la bouche de cette information dans la bouche de Madame Dufoy. Alors, je m'excuse, je voudrais terminer parce que c'est bien ça que je mets en cause. C'est que les entités, qu'elles soient économiques, sociales, politiques ou autres, passées une certaine taille, deviennent inhumaines. Et étant inhumaines, elles accablent l'homme au lieu de le libérer et de permettre son épanouissement. Et l'Europe de Maastricht, c'est cela, comme les grands concernes, les grandes multinationales que dirige un certain nombre de personnages, tous solidaires d'ailleurs, il faut bien le dire, eh bien c'est la même chose. C'est sorti de l'humanité pour entrer dans l'inhumanité. Or, la nation française, la dimension de la nation française, sa dimension historique, l'expérience vécue par elle, constitue un cadre humain de gouvernement. Les empires, que ce soit les États-Unis d'Amérique ou l'URSS, étaient des modèles inhumains qui sont d'ailleurs, et je suis prêt à le démontrer, antédiluviens. Nous sommes en train de construire au 21e des dinosaures où nous construisons des châteaux forts façon perfide.
Vous rappeliez la phrase, la déclaration de Bébéard. Il dirige un groupe qui est tellement gigantesque qu'il ne peut pas le contrôler. Ce qui veut dire, il dirige un groupe tellement gigantesque qu'il ne peut pas le diriger.
Oui. Je me permets de rappeler d'ailleurs la fameuse aphorisme napoléonien, n'est-ce pas, du commandement et de la responsabilité, c'est ne rien faire, faire faire, ne rien laisser faire.
Alors, ce sera une dernière question avant qu'on passe le bobino magique. Certains voient justement dans le gigantisme antédiluvien et jurassique parkien de l'Europe mondialiste
une espérance. Parce qu'ils se disent, et ça, ça existe beaucoup dans les provinces qui ont une forte identité régionale ou provinciale, comme je pense le Roussillon, ou la Corse, ou la Bretagne, ou l'Alsace. On entend des gens qui vous disent, au fond, c'est le meilleur remède contre le jacobinisme dont on crève, c'est de faire exploser ce jacobinisme par le haut, en le mettant en face de son incapacité totale à aboutir à l'objectif qu'il s'est fixé. Et le jour où il sera tellement dépassé par l'ampleur de sa tâche, il sera bien obligé de laisser les provinces se gouverner elles-mêmes.
Oui, c'est ça. Et alors là, moi je crois qu'on est tout à fait aussi à côté de la plaque, parce qu'à côté du gigantisme, il y a l'erreur inverse, c'est-à-dire de n'avoir pas la taille suffisante pour assumer un certain nombre de fonctions régaliennes qui sont la sécurité publique, et on se ferait dévorer région par région. L'avantage de la France, du Japon, de l'Allemagne, de ces nations-là, c'est qu'elles ont démontré, en quelque sorte, dans leur histoire, qu'elles étaient à la fois capables de susciter la prospérité et à la fois capables de la défendre. Je crois qu'elles sont au niveau d'harmonie, d'équilibre, qui me paraît être le cadre dans lequel on doit travailler. Que nous ayons été, pas nous, mais ceux qui ont été au pouvoir, que nous ayons été insuffisants dans cette fonction-là, c'est certain. Mais ce n'est pas, en passant à un échelon supérieur d'organisation, on ne va faire qu'aggraver les dysfonctionnements qui sont ceux de notre société. Et ça n'ira pas mieux, parce que pour le Languedoc-Roussillon ou pour l'Aquitaine, parce que ça se décidera à Bruxelles ou à New York, qu'avant ça se décidait à Paris. Pas non plus tout mettre sur le dos du jacobinisme.
Et on l'écoute, Jean-Marie Le Pen.
Oui, il fallait dire
c'est pas... lui, c'est. Mais on l'a dit tout à l'heure, et puis on sait bien qu'on ne va pas inviter.
Jamais trop.
On ne va pas inviter à monsieur
Victoria, Brody. Je trouve votre enthousiasme un suspect. Peu voyant, suspect. Je vous prie de garder, d'observer quand même la réserve qui s'impose sur une radio qui n'est pas partisane.
Surtout qu'un.
Alors, la parole est à...
Je voulais juste enchaîner, parce que je crois que Philippe a une question beaucoup plus importante que la mienne à poser, mais je voulais enchaîner sur ce que vous disiez tout à l'heure. Et, c'est vrai que je vois mal, comment dirais-je, l'identité du Larzac se défendre contre l'impérialisme américain si jamais l'échelon national sautait par hypothèse. Bon, mais je crois que je voudrais demander à Jean-Marie Le Pen si, en dehors de ces petites féodalités régionales, il n'y a pas d'autres féodalités qui pèsent sur et qui vont contre la souveraineté nationale, notamment, on en parle beaucoup actuellement, la question des affaires. Je crois que de tout temps à jamais, il y a toujours eu des gens qui, étant liés avec le pouvoir, essayaient de leur en tirer le meilleur profit. Mais ce qui me semble grave aujourd'hui, c'est que les mafias ou les grandes puissances d'argent ont pris vraiment le pouvoir en main, et notamment en France par l'intermédiaire de deux ou trois grandes sociétés dont on pourrait parler, et que c'est ça la grande question. Le pouvoir national n'existe pratiquement plus dès aujourd'hui face à ces grands groupes, et qu'est-ce que l'on peut faire là contre?
Parce qu'il n'y a plus au pouvoir de défenseurs de l'intérêt national. Parce qu'on a admis, la social-démocratie ambiante a admis que les managers, n'est-ce pas, financiers, devaient conduire l'économie et par conséquent la politique des États. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus d'autre opposition à cela que l'effort reconstructeur du Front National en France et des poussées nationales, heureusement, dans l'ensemble des pays. C'est ce qui justifie d'ailleurs la mobilisation de toutes les forces antinationales contre nous. Cela explique beaucoup de choses.
Pour en revenir justement à Tapie, que vous avez fort justement combattu, il me semble que même Tapie n'est que... Je dirais que presque le leurre, quand on parle de ses rapports avec le Crédit Lyonnais, il me semble que le Crédit Lyonnais est beaucoup plus grave que Tapie encore.
C'est tout à fait évident. Le scandale du Crédit Lyonnais est peut-être la plus grosse affaire
de la Ve République.
Vous avez failli faire un lapsus qui est superbe, parce que le scandale du Crédit National, oui, c'est l'affaire Stavisky. C'est faire des bombes de Bayonne.
Oui, mais je crois que Stavisky est un enfant de cœur à côté des escrocs qui nous gouvernent. Parce qu'il est évident que nous avons fait une manifestation extrêmement symbolique devant populaire, devant le Crédit Lyonnais. Et il faut demander à Monsieur Aberrère, que Monsieur Aberrère, devant la justice, parce que devant la commission de Monsieur Séguin, je ne crois pas que la lumière éclatera, mais devant la justice, que Monsieur Aberrère explique pourquoi il a perdu 20 milliards. Lourd, n'est-ce pas, 2000 milliards légers, et qu'il nous les demande à nous, contribuables français. Maintenant, il va falloir recapitaliser la banque, et là-dedans, il faut dire que M. Tapie ne représente que 1%. Et il faut nous dire quels sont les autres. Nous en connaissons certains, escrocs internationaux qui ont bénéficié de cadeaux de 5 milliards lourds, comme M. Je cherche son nom, ce...
Petria.
Non.
Ah, pardon,
l'escroc anglais.
Ah, oui, Maxwell.
Maxwell, n'est-ce pas? Ou italien, monsieur Paretti, n'est-ce pas? 7 milliards. Mais ça en fait encore, avec Tapie, ça, que 14 milliards, 13 milliards. Il y a encore 87 autres qui ont été prêtés. Qui ont été prêtés, n'est-ce pas, comme cela, à nos dépens. Il faudrait que, pour commencer, n'est-ce pas, on ait des explications là-dessus pour faire le ménage. Mais j'ai dit que j'étais hostile à l'immigration, mais que cependant je serais très favorable à l'immigration de 2 bataillons de juges italiens pour venir faire le ménage chez nous, montrer à nos juges comment il faut faire, puisque quand il y en a qui font ce métier-là, ils partent tout de suite sur les listes électorales pour devenir députés, c'est plus sûr.
Oui, mieux payé surtout.
Et mieux payé, oui.
Philippe, oui, alors, Jean-Marie Le Pen, hypothèse d'école, le courant anti-maastrichtien se fait fort dans la dernière semaine. Votre liste avec les petites listes réunit un espace important qui dépasse les 20%, pointe à l'horizon les présidentielles. Vous faites 51% au deuxième tour. Vous êtes président de la République. Que faites-vous, Jean-Marie Le Pen? Est-ce qu'on va vers une France, pour employer le jargon de nos amis et pour jouer un peu les faibles d'esprit, est-ce qu'on va vers une France fermée, repliée sur elle-même, frileuse, ou on va vers une France qui retrouve un peu le sens de la grandeur, mais par quelle méthode?
Non, mais pour avoir de la grandeur, il faut d'abord avoir de la hauteur et de la force. Et il faut appliquer des principes. Il n'y a pas de politique sans morale, de même qu'il n'y a pas de politique sans sanction. Il faut rétablir les valeurs fondamentales qui ont gouverné tout de même relativement, comme point de repère en tout cas, l'histoire de notre pays. Il est évident que la France ne sera pas fermée. Elle sera naturellement ouverte sur le monde comme elle l'a toujours été, mais ce qu'elle refuse, c'est à se laisser envahir, à se laisser submerger, à se fondre volontairement dans une autre entité. Rarement dans l'histoire de France, nous avons été soumis à d'autres peuples. Nous avons toujours considéré que l'indépendance était une donnée qui équivalait à la vie, puisque je rappelle que certaines de nos devises, c'était l'indépendance ou la mort, et que ceci est en cause maintenant. Ce que je crois, c'est que le bonheur humain tel qu'il peut être rêvé ou souhaité par les pauvres mortels que nous sommes exige un cadre institutionnel, des cadres institutionnels et conceptuels, que ces cadres ont été forgés au cours des siècles par l'expérience de nos anciens. Il convient bien sûr de remettre les pendules à l'heure, de remettre de l'ordre dans notre maison, et puis notre rayonnement participera tout naturellement de la force française reconstituée. Il ne s'agit pas d'aller se disperser dans le monde entier comme nous le faisons, alors que nous ne sommes pas capables de faire la loi dans certains quartiers de Paris et dans certaines banlieues de la région parisienne, sans parler des autres.
Est-ce que vous avez de l'espoir encore?
Oui, c'est une question que posent beaucoup d'auditeurs.
Très rapidement, est-ce que vous avez encore de l'espoir?
J'ai de l'espoir, oui, parce que je crois qu'il y a une dimension providentielle dans l'histoire de notre pays. Sur le papier, on pourrait être tenté de désespérer. Mais à partir du moment où il y a une volonté et où il y a une providence, nous devons avoir tous les espoirs. Je dirais même que le désespoir nous est inenvisageable, interdit. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Nous sommes vivants, nous nous battons. Après nous, nos enfants, nos filles, nos fils se battront pour la survie, pour la cause, pour le rayonnement de notre pays et de notre civilisation.
Et vous avez un exemple sous les yeux ?
Ah ben, j'ai un exemple évident. Tenez, je vais vous dire, ah oui, c'est celui de l'immigration en Californie. Bon, il se trouve que la Californie, qui est le principal État, n'est-ce pas, américain, quant à la richesse, puisqu'il est le 7e État le plus riche du monde, avec moins de 30 millions d'habitants. Eh bien, vous savez que nous avons été en rapport avec M. Gann, que vous avez connu à Versailles, cet Américain, qui avait dénoncé le sida et qui en est mort, d'ailleurs, qu'il avait contracté dans un hôpital, et qui était, avec le sénateur Jarvis, l'un des deux Américains qui avait suscité un référendum d'initiative populaire en Californie pour abaisser les impôts, et qui avait apporté ainsi, car ils avaient gagné, la démonstration qu'en abaissant les impôts, on relançait l'économie et on arrivait d'ailleurs à avoir des rentrées fiscales supérieures à un taux de richesse générale supérieur. Eh bien, les mêmes milieux qui sont des amis du Front National lancent actuellement en Californie un référendum d'initiative populaire. Vous savez qu'il faut 300 000 voix, 300 000 signatures pour le déclencher. Ils en ont enregistré 600 000 en quelques semaines. Et c'est en novembre qu'a va avoir lieu le sondage, le référendum. Et d'ores et déjà, un sondage fait apparaître que les deux tiers des électeurs sont en faveur du programme annoncé par ce sondage, à savoir l'arrêt total de l'immigration, le renvoi de tous les clandestins, le refus de soins aux clandestins, la fermeture des écoles pour les enfants de clandestins, etc., etc., etc. C'est donc une politique beaucoup plus énergique encore que celle que préconise le Front National. Elle ne s'embarrasse pas de scrupules particuliers. Nous avons un programme qui veut s'accompagner de mesures humaines, n'est-ce pas ? Nous souhaitons faire cela sans nuire aux immigrés, car nous considérons que la responsabilité de l'immigration, c'est celle de la classe politique française, plus encore que celle des immigrés.
Il faut ajouter un détail à propos de ce sondage et de ce référendum, c'est que, étant donné la nature actuelle, la composition sociologique de la Californie en ce moment, 58% des électeurs qui se prononcent en faveur de ce référendum qui renverserait les flux migratoires sont eux-mêmes des immigrés. C'est-à-dire, il y a énormément de Chicanos, de Coréens, d'Asiatiques qui sont devenus Américains et qui disent, c'est fini, on ne peut plus, comme dirait Rocard, on ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Martin Pelletier, une dernière question.
Oui, précisément, pour éteindre l'incendie quand la maison brûle, il faut, comme en Californie, l'assentiment populaire. Est-ce que, actuellement, pour sauver la France, est-ce que vous seriez prêt à un compromis national avec des gens comme Jean-Pierre Chevènement, par exemple, au cas où, sur la défense de la souveraineté nationale?
Mais pourquoi pas? Nous avons toujours été prêts à accueillir sur une plateforme minimum, en cas de danger, de péril national évident, de se battre avec n'importe qui, avec tous les Français. Bien évident, c'est la conception que nous avons du sursaut national. Mais encore faut-il que nous soyons d'accord quand même sur un certain nombre de mesures concrètes. Je ne suis pas sûr que M. Chevènement soit arrivé à ce stade de la réflexion et de la purgation pour pouvoir faire avec nous un bout de chemin. Mais il est évident, par exemple, qu'on devra demain additionner les voix de M. de Villiers, avec les voix du Front National, parce que M. de Villiers a fait campagne sur le programme du Front National. Même si lui n'est plus à ce moment-là à la tête de ses électeurs, ben, s'il est à la tête de ses électeurs, il sera au Front National, et s'il n'est plus à la tête de ses électeurs, ben, j'espère que ses électeurs viendront, voteront pour le Front National, puisque c'est le seul qui ait une position claire, qui est précise, nette, loyale, franche, droite, en quelque sorte. Moi, il y a des gens qui pensent que l'on va sortir du marasme actuel en étant très, très cool, comme on dit, excusez-moi, monsieur Toubon, n'est-ce pas, très soft, pardon, encore, excusez-moi, monsieur Toubon, et que nous allons pouvoir faire le sursaut de la France en par un compromis général avec la corruption, avec le système. Non, nous sommes en rupture, nous sommes une alternative au système. Et il est évident que ça implique, de la part des Français, la volonté de s'arracher à la décadence. Ils ne sentent pas encore qu'il y a le précipice au bout, mais c'est comme le toboggan des enfants. Du début jusqu'aux deux tiers, ça va très bien. Il n'y a qu'à un moment donné où ça s'arrête, on tombe heureusement dans le toboggan, dans le sable. Si vous savez, c'est l'histoire du type qui s'est lancé du 200e étage d'un building, n'est-ce pas ? On lui pose la question au 150e, il dit, bah, jusqu'ici, ça va pas mal. Bon, il y a quelques secondes plus tard que ça ira très mal. Bon, c'est un peu ça. Et ben pour cela, il faut sortir de son égoïsme, de sa neutralité, de ses habitudes, et il faut rompre avec cela, il faut aller voter d'abord, n'est-ce pas, c'est très important d'aller voter, il faut faire voter les amis, les voisins, se mettre à la disposition de ceux qui ont de la difficulté à se déplacer, il faut téléphoner, il faut aussi aider à tenir les bureaux de vote, car ils seront ouverts, ce n'est pas la moindre astuce, de 8h du matin jusqu'à 10h du soir, il faudra contrôler les dépouillements et les scrutins, parce que c'est pas la peine de coller des affiches ou de se déplacer pour voter si on doit se laisser voler les voix au dépouillement. Il faut faire tout cela en se disant que le résultat des élections de dimanche ne va pas transformer du tout au tout le paysage français, mais il va ajouter des raisons d'espérer, en particulier pour notre jeunesse qui en a tellement besoin, qui actuellement s'abandonne bien souvent à comment dirais-je,
désespoir,
au chômage, au désespoir, au suicide, à la drogue. Il y a un sociologue là qui vient de publier un ouvrage très important, je crois. C'est un membre de notre assemblée de la Cour des comptes, il est maître à la Cour des comptes, il déclare, c'est monsieur Philippe de Saint-Marc, nous sommes dans une situation révolutionnaire, et il dit que ce qui explique sans doute l'apathie du peuple français, c'est parce qu'il est le plus grand consommateur du monde d'alcool et de tranquillisants, n'est-ce pas ? Et en plus, il n'a pas cité, mais je crois que ça mériterait d'être cité, il y a le niveau de la télévision qui s'y ajoute. Alors il faut arracher notre peuple à sa torpeur, et pour ça, il faut que les plus lucides et les plus courageux agissent. Et puis, à partir des bases, je crois, en progrès que nous aurons obtenu dimanche prochain, nous allons aller à la bataille et aux batailles suivantes tant qu'ils nous auront un peu de vie en nous.
Ben apparemment, ça va durer encore un moment. Merci Jean-Marie Le Pen, et puis à dimanche soir.
On n'a jamais froid aux yeux, car tout du Chili jusqu'en Chine, on les reçoit à bras ouverts, le mulot de mer. Mais oui, quand une fille les chagrine, ils se consolent avec la mer. Voilà les gars de la marine.
nous soyons le commandant. Quand on est matelot, on est toujours sur l'eau. On visite le monde, c'est le métier le plus beau.
C'est le métier le plus beau.
Du pôle sud au pôle nord, dans chaque petit port, plus d'une fille blonde nous garde ses trésors.
Nous garde ses trésors, pas besoin de poignons, mais comme compensation, à toutes nous donnons un petit morceau de nos pompons. Voilà les gars de la marine, quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux, partout.
Eh bien, je dirais pas qu'on va changer d'univers, mais on va changer de domaine et de territoire, puisqu'on va maintenant descendre au jardin avec Cécilia, puisque c'est la rubrique mensuelle du bouquet.
Il n'y a pas de bouquet sans fleurs.
Il n'y a pas de bouquet sans fleurs, comme il n'y a pas de fumée sans feu. Mais dans le cas du bouquet, c'est plus vrai que dans le cas de la fumée. Donc je vous laisse la parole, Cécilia, je vous laisse présenter vos invités.
Merci, on a, je crois, une petite musique, non ? Bonsoir aux auditeurs, c'est avec grand plaisir que nous les retrouvons après une petite interruption due aux circonstances. Bonsoir Madame Roche Bernard, bonsoir Nicole Duquesne. Merci d'être là toutes les deux ce soir pour parler de fleurs. Madame Roche Bernard, vous êtes conservateur territorial du patrimoine et commissaire adjoint de l'opération Jardin en Val d'Oise. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette gigantesque opération ?
Tout à fait. C'est une opération qui a été montée l'année dernière par le Conseil général du Val d'Oise dans le cadre de l'année de l'environnement, qui était donc le thème retenu par les élus l'an dernier et dont le commissariat général a été piloté par Madame Annick Couffi, qui est chargée de mission à la mission du patrimoine, à la direction des affaires culturelles du Conseil général. Le rôle de cette opération, qui s'est donc étendu sur l'année dernière avec un petit prolongement cette année.
Et un petit prolongement en 95, je crois.
Et un petit prolongement en 95, nous en parlerons tout à l'heure. Le rôle était donc la mise en valeur du patrimoine vert par des expositions, des colloques, une publication, puisqu'il y a eu un catalogue avec ces expositions, pour sensibiliser, pour faire connaître ce patrimoine qui est très très riche en Val d'Oise, que ce soit un patrimoine encore existant ou un patrimoine disparu.
À retrouver. Patrimoine, une exceptionnelle richesse.
Tout à fait.
Pouvez-vous nous citer quelques-unes des opérations qui ont eu lieu dans ce cadre en 93, pour resituer un petit peu le cadre de ce qui va se passer et de ce qui se passe encore en 94?
Il y avait donc quatre expositions, une exposition principale présentée à l'abbaye de Maubuisson sur le thème « Il était une fois les jardins », donc l'histoire du style des jardins, les jardins à la française, les jardins à l'anglaise, les jardins paysagers du 19e. Et autour de cette exposition centrale, il y avait trois expositions satellites sur des thèmes plus spécifiques, plus contemporains aussi, une exposition consacrée aux jardins ouvriers et familiaux, qui s'appelait Jardins et Sociétés, une exposition sur les parcs et jardins urbains, donc là on abordait tout à fait les données contemporaines, et une exposition plus ethnographique, plus ethnologique, qui s'appelait Saint-Fiacre et l'art du jardinier, où on abordait donc la tradition du patronage de Saint-Fiacre pour les jardiniers, les cultures en Val d'Oise, où il y a une tradition également très forte et des spécificités de culture. Et l'ensemble des thèmes abordés dans ces expositions étaient regroupés dans un très beau catalogue de 315 pages, abondamment illustré. C'est un ouvrage collectif. Il y a eu également des colloques sur jardin et société, sur l'art du jardinier, des journées d'études pour essayer de faire revivre, peut-être restaurer des domaines qui existent encore mais qui sont peut-être un peu difficiles à lire et à entretenir. Et puis il y a eu des concerts et une très belle journée organisée grâce à l'école d'art floral de Versailles, à Guiry-en-Vexin, où nous avions, enfin, ou plutôt les personnes responsables, ont travaillé à partir de peintures d'époque 17e, 18e, 19e, et ont recréé les bouquets s'inspirant de ces peintures.
Nous en reparlerons tout à l'heure, mais c'est un petit peu une spécialité de l'école d'art floral de Versailles, ça. Les bouquets historiques, un petit peu. On peut le dire, Nicole, n'est-ce pas?
Ah oui, tout à fait.
Et alors, cette année, en 94, l'opération se poursuit avec, je crois, un point fort qui est la Roche-Guyon.
Voilà.
L'ouverture au public du château de la Roche-Guyon. Parlez-nous un petit peu de ce site exceptionnel. Là, rapidement, c'est... parce qu'on peut pas retracer l'histoire en si peu de temps, mais on fait quand même.
Très, très vite. Le site de la Roche-Guyon, pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, bon, c'est un village qui a gardé son caractère à la frontière du Vexin, tout près de la Normandie. Et ce village possède un château qui est adossé aux falaises de craie de la vallée de la Seine, où on peut lire plusieurs siècles d'histoire, puisqu'en fait, il y a eu en premier une installation troglodytique, puis un donjon au XIIe siècle, et dans la partie basse, dans le village, il y a donc un château qui présente plusieurs siècles d'architecture, allant jusqu'au XIXe. Donc c'est une page d'histoire et une page d'architecture qu'on peut découvrir en venant à la Roche-Guyon.
D'abord, d'ailleurs, sur le petit opuscule qui présente la manifestation, que c'est une véritable leçon d'architecture.
Tout à fait.
Alors c'est d'autant plus intéressant. Alors que se passe-t-il à la Roche-Guyon cette année, dans ce cadre exceptionnel?
Alors, le Conseil général qui a souhaité animer ce lieu, qui est donc ouvert pour la première fois au public, a organisé plusieurs manifestations. Il y a tout d'abord, pour se repérer dans le temps, un parcours historique qui explique donc l'histoire du bâtiment, l'histoire des diverses familles qui ont été propriétaires. Dans les écuries, l'ensemble des 4 expositions consacrées au jardin a été remonté. C'est la première fois qu'elles sont réunies, puisque l'année dernière, il s'agissait d'une opération éclatée.
Ça, c'est très intéressant pour les gens qui, éventuellement, n'auraient pas eu ces expositions.
Voilà.
Elles sont à leur disposition cette année. Et celle de Saint-Fiacre, pour les dames d'art floral, est particulièrement attirante. C'est un petit peu notre patron, Saint-Fiacre, tout de même.
Tout à fait.
Nous avons une petite dévotion pour lui.
C'est tout à fait naturel. Et le Val d'Oise avait une tradition d'horticulture très forte, puisqu'il y avait des cultures de pivoine en plein champ. Il y avait des serres spécialisées dans la production de coléus et d'autres plantes. Donc il y a vraiment une tradition très très forte de fleurs en Val d'Oise.
Et on fête encore Saint-Fiacre à Osny.
C'est ça, le premier week-end de septembre. Et justement l'année dernière, l'exposition avait été inaugurée dans le cadre de cette fête.
Alors, le calendrier proche de la Roche-Guyon pour nos auditeurs. Le 11 juin, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant.
Oui, une conférence qui abordera l'histoire de la botanique, pas de façon spécialisée, mais une sorte de promenade à travers les espèces qui sont parvenues jusqu'à nous à la suite de voyages, d'expéditions botaniques au cours des siècles.
Alors, la modestie vous empêche de dire que la conférencière sera vous-même.
Oui, avec des travaux quand même d'un collègue de l'an dernier pour le 18e et le 19e. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le 18 juin, une autre conférence sur les parcs urbains, cette fois-ci, qui expliquera un petit peu, en particulier, la naissance des squares, des parcs urbains, comme par exemple l'axe majeur à Cergy-Pontoise, créé par Danny Caravan. Voilà. Un concert Amour des lycées orgues, avec un petit souper, non pas du roi, mais à la façon du 17e.
Très, très attirant, tout ça.
Oui, c'est presque trop, parce que ça fait beaucoup de choses à la fois et on est très sollicité. Mais enfin, je crois que chacun peut y trouver un petit peu ce qui lui convient. Le 25 juin, un spectacle de danse et aussi, bien sûr, cette exposition d'art floral dont on va parler
sur laquelle nous allons
maintenant.
Revenir,
oui. Voilà.
Alors un petit peu plus tard en saison, 17 septembre, le Jardin des photographes, c'est ça?
Voilà, une exposition de photographies à partir des campagnes photos qui ont pu être faites l'an dernier, où nous exposerons les œuvres les plus caractéristiques des photographes qui ont travaillé. C'est une approche très, très personnelle des parcs et jardins. Et d'autres concerts et aussi la présentation d'un ouvrage auquel nous travaillons en ce moment, qui est une chronologie, ou du moins un essai de chronologie, de l'histoire de l'art des jardins. C'est un ouvrage qui est très attendu des spécialistes et qui sera donc lancé à l'occasion des Journées du patrimoine.
Alors nous allons revenir sur ce qui va se passer les 25 et 26 juin. Nicole Duquesne, c'est le moment de vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes vice-présidente de la Société d'horticulture des Yvelines, qui portait un bien plus joli nom jusqu'au mois de février dernier. Elle s'appelait la Société d'horticulture de l'ancien département de Seine-et-Oise.
Et c'est côté des Yvelines, effectivement, qui avait son charme, mais que nous avons dû abandonner.
Je confesse ma nostalgie, puisque la seule voix contre le changement de nom a été la mienne, pour le principe.
Si ça devenait difficile et un petit peu long de décliner notre identité, oui, je pense qu'il fallait une réactualisation.
Donc vous êtes la vice-présidente de cette société qui existe depuis plus de 150 ans, puisque sa fondation remonte au 7 avril 1840, et vous êtes aussi responsable de l'école d'art floral depuis 4 ans
depuis
maintenant.
Depuis 4 ans, tout à fait.
Alors,
oui.
Parlez-nous un petit peu des activités de cette école d'art floral.
Je parlerai d'abord en général de cette société d'horticulture qui existe au même titre que de nombreuses sociétés d'horticulture en France. Il faut savoir que c'est une société qui réunit des amateurs, mais amateurs au sens étymologique du terme, c'est-à-dire celui qui aime et celui qui se passionne. Et il faut voir quelle est la passion et l'intérêt de tous nos adhérents pour les fleurs, pour la culture maraîchère, qui peut-être maintenant est un petit peu moins prisé parce que nous n'avons plus les jardins que nous avions autrefois. Donc,
les arbres fruitiers ont encore beaucoup de succès.
Les arbres fruitiers, tout à fait. Donc cette société d'horticulture, qui est très ancienne, comme vous venez de le dire, 150 ans, et qui maintenant porte le nom de Société d'horticulture des Yvelines, comprend trois sections. Une section promenade, qui trois fois par an en général nous amène dans le département et bien au-delà, visiter des jardins tout à fait exceptionnels.
On ne sort pas des jardins.
Ah non, nous sommes toujours dans le même univers, et cet univers passionnant, il nous arrive justement lorsque nous visitons ces jardins, de rencontrer les propriétaires des jardins qui tiennent avec beaucoup d'honneur et de fierté à nous faire visiter leur jardin et pouvoir la passion qui les anime, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc le second volet est un volet horticulture, donc des cours de jardinage pour amateurs y sont donnés. Et le troisième volet, qui constitue l'activité essentielle en nombre d'adhérents tout au moins, qui est l'art floral.
Alors vous dispensez de nombreux cours qui vont de l'initiation aux manifestations qu'on peut dire de prestige.
Oui, tout à fait. Nous avons 5 niveaux progressifs d'enseignement qui portent effectivement, qui s'adressent aux personnes qui sont tout à fait néophytes et que nous amenons jusqu'au niveau des examens qui sont délivrés par la SNHF, qui est donc la maison mère, Société nationale d'horticulture de France, et dont le siège
ici
est 84 rue Grenelle à Paris.
Alors, pour les gens qui aimeraient nous rejoindre, on ne peut que leur conseiller de venir donc à la Roche-Guyon les 25 et 26 juin. Ils pourront y admirer des bouquets qui vont être conçus en accord avec le site, avec les salons.
Oui, alors là, nous nous trouvons dans un cadre un petit peu spécial. Nous avons eu une expérience, enfin, qui ne date pas de mon animation, parce que l'école était dirigée avant par Madame Vignon, et nous avons eu l'occasion de décorer des endroits tout à fait prestigieux, comme la maison de Madame Elisabeth, comme l'hôtel de Madame Dubarry. Et là, nous nous trouvons dans un cadre un petit peu spécial, parce que c'est un château qui n'est pas meublé.
Non,
donc les fleurs doivent avoir encore plus d'importance puisqu'elles sont le fer à l'or de l'architecture.
Alors, pour prendre des renseignements sur l'école d'art floral de Versailles, un numéro de téléphone, 39 54 02 31. Et pour se renseigner sur ce qui se passe à la Roche-Guyon et y venir nombreux, 34 25 32 52 ou 34 25 32 90 ou encore mieux Minitel 36 15 Val d'Oise. C'est ouvert de 10h à 18h jusqu'à 19h le week-end. C'est fermé le lundi. Alors, tous les renseignements seront donnés sur les tarifs et sur les différentes animations. Je vous remercie beaucoup de votre présence et j'espère que, surtout pour Madame Rose Bernard, quelqu'un aura l'idée de l'inviter un peu plus longuement parce qu'il s'agit vraiment d'un programme tellement vaste, je crois qu'il le mérite.
On va arranger ça si cette dame accepte mon invitation.
Non, mais je crois qu'elle le fera très volontiers, elle est passionnée par ce qu'elle fait. Est-ce que je peux encore faire une toute petite annonce?
Si, une annonce, Victoria, oui.
Je voulais rappeler qu'il se passe toujours à Caen les Floralies de la Paix. Et nous avons accueilli Claudine Sauvage la dernière fois un petit peu rapidement pour un concours qui a eu lieu, un concours d'un fleurel qui a eu le succès mérité. Et je voulais signaler que le 18 juin serait baptisée la rose qui s'appelle « À Caen la paix ?» et que les gens qui veulent visiter les Floralies peuvent avoir des renseignements au 16 31 86 27 65. Merci beaucoup.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, du 8 juin 1994, diffusé mercredi 2 décembre 2015, de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 3 décembre dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.